Allez, débat foot Marseille, l'émission Fact in Spirit irlandais retrouvée face à Rennes. C'est tout de suite, on va parler de ce match. Et oui, une victoire, on va dire, poussive, peut-être un petit peu poussive. Mais le résultat, là, c'est un super résultat. On va voir tout ça. On va aussi parler un petit peu de l'actu en vrac. Il y a un petit peu de mercato. Il y a des petites rumeurs, des prolongations, des possibles départs. Le calendrier à venir.
C'est tôt quand même, hein.
Ouais, mais il y a eu des petites infos, c'est pour ça, Jean-Charles. Tu vois, il y en a une là dont je me souvenais plus, concernant Bailly, qui va vous faire froid dans le dos. Jean-Charles de Bonneau est là. Comment ça va, Jean-Charles ?
Ça va bien, Nico.
Tu es rassuré par cette victoire face à Rennes, quand même ?
Rassuré, pas tout à fait, mais c'est une bonne victoire. Victoire.
Comptablement, c'est intéressant. Micheline, voilà. La compta est contente. Sourignat est avec nous, merci d'être là.
Salut.
Ça va ?
Nico. Ça va, nickel, rassuré aussi.
Toi aussi soulagé.
Ouais, on en parle.
Soulagé, peut-être, plus que rassuré. Le jongleur. L'homme qui gère trois écrans en même temps. L'homme qui se fait appeler la voix. Ryan est avec nous.
Bonsoir à tous.
Ouh, la petite voix, il fait bien. Ouais. L'homme de radio. Bonsoir. Encore, tu veux parler football avec moi ?
Il n'y a pas énormément de compression sur ce micro-là, mais ouais. J'aime bien.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Ryan, dans cette émission ?
Comme toutes les émissions, bien sûr, vous mettez vos questions dans le chat. Ce sera pour la FAQ, la fac à la fin. Vous mettez questions, deux points sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous avez été très, très, très nombreux à vous abonner ces derniers temps. Donc, on vous remercie beaucoup. On arrive
solidaire dans la défaite comme dans la victoire.
C'est ça. On arrive doucement aux 75 000. Donc voilà, on vous remercie. Mettez aussi un petit like si l'émission vous a plu. Ça nous soutient. Et sur Twitch, on vous remercie aussi. Merci Sunzu, merci No, merci Talos pour vos derniers subs. Si vous avez Prime, vous liez vos deux comptes et vous avez droit à un sub gratuit. Voilà.
Super, merci Ryan. Likez cette émission, je trouve que vous ne la likez pas assez cette émission. Vous êtes nombreux et vous ne likez pas assez. C'est Ben qui me dit ça dans le vrai. Oui, ok Ben, c'est bon, je l'ai dit. Allez, on va commencer tout de suite avec le décrassage de Rennes-OM. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même remercier notre partenaire sur cette émission. Vous les connaissez par cœur. On a fait maintes et maintes blagues, mais c'est du bon produit, c'est Manscaped avec le Lawnmower 4.0. Il est toujours là. Il tient bien, parce que celui-là, il ne sert pas, mais il est magnifique. C'est du beau produit, c'est américain. C'est notre partenaire principal, ils nous font confiance depuis de nombreux mois. Vous en avez l'habitude, vous pouvez tout raser, sol au plafond. Vous pouvez l'utiliser sous la douche pour ceux qui veulent être imberbes des pieds à la tête. Moi, c'est surtout la tête, personnellement. Voilà, donc c'est du bon produit, ils font plein d'autres choses, des caleçons, tout ce qui est pour la bonne santé de l'homme. Et surtout, vous pouvez profiter, parce que vu que c'est quand même notre sponsor, il y a de la réduc. C'est moins 20%. Moins 20%, c'est ça, Ryan ? J'ai un doute du coup, parce que ouais, je me mélange les pinceaux.
C'est ça. C'est bien ça, moins 20% avec le code FCM et la livraison gratuite.
C'est en lien là-dessous. Merci Ryan de m'avoir sauvé. J'ai eu un petit temps à un moment donné. Donc moins 20%, livraison gratuite, c'est du bon produit. C'est un beau cadeau pour la fête des grands-pères.
C'est bon, désolé.
J'ai eu comme un retour son d'un coup. Pour la fête des grands-pères. Des grands-mères, c'est pas très sympa.
Mais ça peut servir.
Et pour ceux qui ont attendu malheureusement 6 heures du matin pour regarder le combat Cyril Gane, ah oui. John Jones auront remarqué qu'ils sont aussi partenaires de l'UFC.
Oui, c'est comme ça qu'on les a trouvés, parce que vous savez que Ben est un fanatique du UFC. D'ailleurs, pour tous ceux qui se sont levés, qui n'ont pas beaucoup dormi pour, c'est quoi, 2 minutes de combat ?
Ouais, une 40, je crois, une minute 40.
Belle carotte, belle carotte. Cyril, pas bien joué sur ce coup-là, on est un peu déçus quand même. Je connais rien à l'UFC, c'est pour ça que je peux me permettre. Voilà, donc notre sponsor, ils nous font confiance, faites-leur confiance, le lien est en description. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez une idée de cadeau, elle est là, c'est un beau cadeau, c'est du bon produit, c'est pas des trucs qu'on jette au bout d'un an, c'est vraiment du vrai bon produit, donc n'hésitez pas. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans ce décrassage de Rennes-OM, une victoire 1-0 sur un but de Kolasinac, un petit coup de fouine sur un coup franc joué rapidement. Jean-Charles, quelle est ton analyse à froid après ce match, après 24 heures ?
Ben écoute, moi j'attendais une réaction rapide de la part de l'Olympique de Marseille suite à cette élimination en quart de finale.
Scandaleuse,
de la
Coupe de France. On peut dire. Élimination scandaleuse.
Scandaleuse, oui, exactement. Et j'attendais la réaction, mais aussi dans le jeu, dans l'agressivité, de savoir si les joueurs étaient capables de vite relever la tête et de se replonger dans ce championnat. Et puis ça a été chose faite, puisque on ne va pas dire que c'était un match extraordinaire. C'était un bon match. Mais j'ai beaucoup apprécié la révolte. Cette envie, d'abord, le système a un petit peu changé, puisque on s'est vite aperçu que c'était du marquage individuel dans toutes les zones du terrain.
Avec les latéraux qui ont été inversés, les pistons aussi.
Oui, aussi. Mais ce qui n'est pas facile, Après une défaite en Coupe de France, beaucoup d'énergie le match d'avant face à Paris. Là, on se dit, ça va peut-être jouer différemment, mais différemment dans le marquage individuel, c'est jamais très facile.
Ils sont allés chercher très haut.
Très haut, et surtout, l'individuel, quand tu te fais passer, il faut bien compenser les espaces après qui vont suivre dans le jeu. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que l'OM l'a respecté à quasiment la perfection. Après, dans le jeu, ils ont su réagir quand il le fallait, avec cette pression mise sur l'adversaire, sans trop occasionner de facilité aux attaquants de Rennes. Une équipe qui, pas surpris, mais qui a bien réagi. Et ouais, ça, j'ai beaucoup aimé.
C'est ce que tu attendais.
Voilà, j'attendais ça, j'attendais des ombres. C'est ce que j'ai vu face à Rennes. Donc, félicitations. Après, on parlera certainement du but, du comportement de certains joueurs, mais moi, globalement, l'attitude, c'est ce que je retiens sur cette rencontre.
Ouais, Sourigna, il y a eu 10 minutes très fortes de l'OM d'entrée de jeu qui aurait pu ouvrir le score par Under et Klos qui a buté sur Mandanda. Après, Rennes a eu la barre et une grosse occasion de la tête sortie par Lopez. La deuxième mi-temps était beaucoup plus insipide, quand même, globalement. Mais est-ce que tu es d'accord avec Jean-Charles ? C'est surtout la réaction, toi, que tu veux mettre en avant ?
Ouais, c'était le plus important, en réalité. Et surtout, comment relever la tête après cette humiliation.
Tu prends une claque face à Paris, tu fais sortir par une ligue de derrière.
La claque face à Paris, bon.
Est-ce que t'as pas fait mal par rapport au match d'après ?
Bon, je pense que le match d'Annecy, j'ai trop de questions sur ce match et je comprends toujours pas comment on a pu passer au travers. Et là, tu avais avant le match, tout le monde avait stagné. Lens, Monaco, et tu avais une belle occasion et je me suis dit putain, là, il faut pas se manquer. C'est vraiment là qu'il faut pas se manquer. Ils ont réussi à le faire. Alors, ça a été difficile, parce que Rennes, ce n'est pas une équipe facile non plus, même si je trouve que Rennes n'a pas été extraordinaire. Et ils ont la blessure, d'ailleurs, d'un joueur qui sort, pour le coup, je pense, les handicaps aussi.
Donc, ils ont un problème avec les blessures, parce qu'ils ont Terrier qui est blessé. Ouais. Et on a vu que Genesio, il expérimente un peu. Là. Il a fait un 4-4-2 un peu bizarre, en mettant un de ses meilleurs joueurs, Bourigeau, au milieu de terrain. Il ne fait plus jouer Madjer. Enfin, c'est la gestion de Rennes, c'est pas notre problème, hein, mais c'est un peu bizarre quand même.
Ben, je cherche certaines... Pardon.
Vas-y.
Il cherche certainement des solutions aussi à pouvoir relever la tête parce que cette équipe de Rennes a perdu ses derniers matchs et n'ont pas été très bons.
Non.
Il y a eu beaucoup de défaites, donc chercher le bon dispositif face à l'Olympique de Marseille, c'est jamais très facile parce que
cet Olympique pressing,
de Marseille-là, le pressing qu'il impose à ses adversaires, mais c'est surtout, les mouvements qui peuvent se passer dans cette... Pas dans cette rencontre-là, mais dans cette équipe, parce que, notamment sur le but qu'on marque, c'est une nouvelle fois un défenseur. Donc c'est jamais très facile de pouvoir se positionner face à un adversaire qui est tout le temps en mouvement, qui cherche le jeu vers l'avant et qui arrive dans tous les sens. Et ça perturbe énormément les entraîneurs adverses et les joueurs aussi, parce que les joueurs se retrouvent dans des positions où ils ne sont pas, en position de force, ou alors ils sont mal positionnés par rapport à leur jeu à eux, personnel. Donc, ils sont en délicatesse face à cet adversaire marseillais qui est, pour moi, par moments déroutant dans le système.
Est-ce que tu as un fait du match, Sourigna ?
Le fait du match, c'est... le but, hein. Je dirais que, de toute façon, trouver un autre fait de match, parce que, honnêtement, j'ai trouvé personnellement la première mi-temps d'un ennui total.
Moi, j'ai trouvé la seconde surtout ennuyeuse.
Mais tu vois, jusqu'au but, j'ai trouvé, franchement, on s'est fait chier sur ce match.
Parce que je trouve qu'en première mi-temps, tu vois, t'as l'OM qui presse pendant 10 minutes avec deux belles occasions. Après, t'as un peu le réveil des Rennais avec la barre de Guiri et cette fameuse tête de Colimundo. T'avais quand même des occasions, je trouve que ça partait un peu en contre.
Justement,
en deuxième mi-temps, ça a été, mais...
On a eu quelques occasions au début, on les a toutes loupées. Et on regardait le match avec Mourad et Mourad me disait mais on va le perdre ce match, c'est pas possible de louper autant d'occasions comme ça en si peu de temps.
C'est vrai.
Et au final, bon, on sait que les premières mi-temps de l'OM sont toujours très, on va dire, plutôt faibles.
Hein, depuis Monaco,
et tu reviens généralement toujours bien en deuxième. Donc
Là, je trouve que t'as marqué, après t'as un peu tenté jouer le contre, que t'as pas bien joué en plus.
Ce qui me faisait peur vraiment, moi, c'est les coups de pierre et Terrenet.
Ouais.
Ils ont pris tous les ballons de la tête, c'était impressionnant. Quoi. Franchement, ils faisaient peur. À chaque fois qu'il y avait un coup franc ou un corner.
Il y en a deux à un quart d'heure de la fin. Là.
C'est ça.
Et les deux fois qui est au marquage.
Et là, c'est
mon chouchou.
Ouais, bon, ça, on en parlera, je pense, plus tard.
Je pense qu'on en parlera dans la merguez. Est-ce que tu as un autre fait du match, Jean-Charles ?
Écoute, moi, il y a deux choses qui me. Pas qui me surprennent, mais qui me font un petit peu réagir. C'est surtout le comportement de l'arbitre. qui a été pour moi très bon, qui a laissé l'avantage.
Il laisse beaucoup jouer cet arbitre.
Qui laisse énormément l'avantage, qui laisse beaucoup jouer. Et je trouve que ça représente un peu le vrai football. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des coups de sifflet à n'importe quel moment.
Donc pour toi, il n'y a pas pénalty sur Sanchez alors.
Non, mais c'est. Après, on peut s'arrêter sur certaines choses, mais bon, on ne va pas discuter sur ce coup-là. Mais je trouve que l'arbitrage, ce soir-là, l'attitude de l'arbitre vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des entraîneurs. Du comportement, je
Il n'a pas sorti les cartons pour un oui,
sort pas les cartons pour dire tu vas te calmer, ben tiens, prends-toi un carton jaune. Non, il y a eu par moments des tacles assez
appuyés,
mais bon, ça laisse jouer, on laisse l'avantage.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouve que c'est intéressant. Et le deuxième chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que bon, même si hier soir tu gagnes, c'est Vitina quand même.
Ouais.
Et Vitina, il n'est jamais. Il n'est jamais au départ d'une composition d'équipe.
Et son entrée.
Sans parler de Sanchez. Ce que je veux dire, c'est que ce joueur-là qui a été le plus cher en transfert à l'Olympique de Marseille, il est souvent.
Mais est-ce que ce n'est pas lié à Sanchez, justement? Enfin, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est dans l'actu en vrac. Est-ce que tu as un man of the match, Sourine?
Kolasinac.
Ouais. Pas que le but, hein, d'ailleurs, en fait.
Pas que sur le but, parce qu'il il a été agressif tout le match, mais propre. J'ai beaucoup aimé son match, vraiment.
Il a été disponible offensivement, alors que Mbemba l'a moins été, mais ça on en parlera aussi, c'est toujours une histoire de bon chou. Est-ce que tu as un autre homme of the match?
J'aime Rongier, j'aime l'homme.
Ouais, c'est
j'aime
vrai.
Le jeu, j'aime le caractère, j'aime la personnalité. On l'a écouté après le match, quand il parlait, il a dit on est obligé de réagir, de se comporter comme des hommes.
C'est un vrai capitaine.
C'est vraiment un leader. Alors qu'au départ, je pensais que c'était un leader sur le terrain, mais pas par la parole. Là, je pense qu'il va beaucoup plus loin aujourd'hui dans ses propos, dans ses analyses, en plus très très bonne analyse chaque fois.
Oui, c'est vrai,
mais
il parle
surtout,
bien.
Mais surtout, il a ce comportement de responsable d'une équipe, d'un collectif, et j'adore ça.
Il est de plus en plus respecté, j'ai l'impression, Rongier.
Il est beaucoup plus régulier
sur
ses perfs.
Je pourrais rajouter Paul Lopez qui fait un bon match.
J'attendais que tu le dises, donc c'est pour ça que.
Et je rajouterais même, moi, Balerdi. Je trouve qu'il a bien réagi après son match un peu cataclysmique, surtout la seconde mi-temps face à Annecy. Je trouve qu'il a été solide dans les duels. Niveau aérien, quand c'était dans sa zone, il a pris les ballons. Un match où il ne fait pas d'erreur flagrante. Je trouve que pour un mec qui était au fond du trou, qui s'est fait vilipender par tous les supporters marseillais à juste titre, il a su réagir aussi. Moi, je trouve qu'il a fait un match sérieux et je voulais le souligner quand même parce qu'on le taille quand il n'est pas bon.
Ce qu'il faut dire sur Balerdi, c'est qu'il a du caractère à pouvoir rebondir assez rapidement.
Ouais.
Quand il est au fond du trou, hop, il est capable de réagir et hop, d'être d'un coup, de faire un bon match derrière. Et ça, c'est assez surprenant quand même. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ce joueur-là, avec ce caractère-là, de pouvoir réagir quand il est au fond du trou, de ne pas trouver la régularité dans ses rencontres. C'est assez bizarre. Donc il y a peut-être un travail de fond à faire avec lui.
Mais est-ce que là, c'était l'extérieur aussi? Est-ce que ce n'est pas un peu plus simple pour lui?
Je ne sais pas, mais c'est quand même des responsabilités face à des adversaires qui étaient pas mal.
Rennes, c'est une belle équipe.
Guerri, Doku, ça va vite, ça dribble bien.
Calimundo, physiquement, ça y va.
Donc voilà, c'est Calimundo, voilà, c'est quand même des attaquants de performance. Donc il arrive quand même à ressortir une nouvelle fois la tête de l'eau et de se montrer à son avantage. Donc il y a peut-être un travail à faire différemment psychologiquement.
C'est mental.
Voilà. Et après, peut-être que ça sera moins critiquable.
C'est vrai. Est-ce que tu voulais rajouter un truc, vas-y.
Non, je voulais revenir par rapport à Balerdi. Et pour le coup, tu parlais d'arbitrage tout à l'heure. Je trouve que l'arbitre a été injuste avec Balerdi et plutôt juste avec Guendouzi. Parce que Guendouzi, c'est vrai qu'il est parti chercher plusieurs fois des fautes.
Ouais.
On peut l'interpréter comme, pour moi, peut-être pénalty, en tout cas, sur lui, sur la sortie de Mandanda. Il fait ce fameux geste où il lève les bras, tu vois, en se jetant. Alors je pense que l'arbitre se dit, bon, lui...
Il en rajoute
un peu trop. Et à chaque
le ballon
fois,
est loin, en plus.
Ouais, et à chaque fois, finalement, qu'il a subi une faute, elle n'a jamais été sanctionnée par l'arbitre.
Alors après, l'arbitre, il ne sifflait pas beaucoup. Hein, il
alors que,
beaucoup jouer.
Pour le coup, Balerdi, qui se fait tirer le maillot plusieurs fois...
C'est vrai.
Lui, par contre, il ne siffle pas, l'arbitre, là. Et Balerdi, c'est vrai qu'il s'était pas mal énervé quand même à ce moment-là.
Mais après, Balerdi, il met des petits coups aussi. Et il prend un jaune, d'ailleurs, justifié, parce qu'il prend un petit coup de coude à la fin. Mais c'est lui qui retient, il coupe la contre-attaque. Le jaune, pour moi, il est logique aussi.
Bien sûr, c'est arbitré intelligemment.
Ça laisse jouer.
Il faut aussi le souligner.
À l'anglaise, un peu.
On sait qu'il y a un joueur qui a une attitude souvent de rouspéter, d'aller ronchonner auprès des joueurs, des arbitres, tout ça. Commence à être connu, ce joueur-là. Donc, à un moment donné, il rentre dans son jeu. Et il le laisse faire. Donc je trouve que c'est intelligent. Tu vois, les petits coups de coude, tu vas rouspéter parce que soi-disant le pénalty sur Mandanda, en l'occurrence...
Ça, Rennes l'a mieux fait que nous.
Pardon ?
Rennes l'a mieux fait que nous. C'est-à-dire que Rennes a mieux utilisé, je trouve, l'arbitrage que nous. Parce que quand le joueur tire le maillot de Balerdi, une première fois, c'est pas sifflé. Il le refait encore une deuxième fois derrière, toujours pas sifflé.
Et c'est la troisième fois qu'il le siffle.
Ouais, c'est ça. Et là, je vois même Mourad qui s'énerve, je lui dis, mais c'est normal. La première fois, il n'est pas sanctionné, il continue à le faire. Tant qu'il n'est pas sanctionné, il va continuer. Et c'est un peu de malice, tu vois.
C'est fait intelligemment parce que regarde, l'arbitre qui laisse jouer la première fois, la deuxième fois, la troisième, il sanctionne. Il ne va pas sanctionner de suite pour un tirage de maillot non plus, en se disant, ça y est, je vais casser le rythme du match. Je pense qu'il veut donner du spectacle aux gens qui sont au stade et ceux qui regardent cette rencontre. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir un arbitrage comme ça que quand à peine tu tires un maillot, on te met un carton jaune, et quand il y a un tacle qui est dangereux, on te dit attention, le coup d'après sur le jaune. Restons dans le jeu.
Mais il faut uniformiser l'arbitrage.
Quand on lève le maillot, ça, le qu'on fait plaisir en
marquant. Complètement illégal avec les arbitres.
C'est un petit message ou quoi que ce soit. Arrêtez, c'est la joie. Ça,
le truc, c'est que là, il y a des trucs différents. Jean-Charles, l'histoire des messages, c'est des règles stupides. Et l'arbitrage, moi, je préfère cet arbitrage-là où tu laisses jouer les petits contacts, les petits trucs. À partir du moment où ça n'a pas d'incidence sur une occasion de but, t'as pas à intervenir. Laisse jouer.
Et qu'il n'y ait pas de grosses blessures.
Il faut que tous les arbitres arbitrent comme ça, en fait. Parce qu'on l'a vu un peu à la Coupe du Monde. Maintenant, il faut. Je trouve quand même globalement, les arbitres français, depuis l'après-Coupe du Monde, essayent de mettre ça en place. Lui, c'est celui peut-être qui le fait le plus.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé. C'est ça.
Mais c'est vrai que c'est pas le même jeu, du coup, c'est plus intéressant.
C'est ce qui pourrait aussi, mieux te roder pour les matchs de Ligue des Champions.
Complètement.
Parce que là, en Ligue des Champions, généralement, on est très gentil, on a peur de faire des tacles et d'être sanctionné, parce qu'en Ligue 1, on a tellement l'habitude que.
Ça siffle pour un oui, pour un non. Exactement. On attend la faute. On attend la faute.
C'est ça que c'est dans la vérité du jeu.
C'est ça, c'est ça.
Et là, c'est vrai que.
Là, on était sur une autre. Plus sur un nuage en disant oh, on va tirer le maillot, on va le tacler doucement.
Du coup, t'es en sucre.
On va lui parler, on va le pousser le carton. Là, il laisse jouer. Mmh. Là, c'est des hommes qui jouent, en fait. Tu vois, c'est vraiment des matchs de football. Ouais. Et le football, c'est quoi? C'est du contact aussi. Si tu lèves le contact et que tu casses le rythme à chaque fois, on se dit, ouais, mais le jeu, il est mort, il est lent, tu vois. Ça donne pas de vitesse.
C'est haché.
Il n'y a pas assez de mouvement. Il faut rentrer dans ce combat. Et tu as tout à fait raison quand tu dis, ça représente un match de Ligue des Champions. Quand tu te rentres dedans et que le joueur se relève, pourquoi tu vas siffler quelque chose? Pourquoi tu vas donner un carton jaune? Laissons jouer. Les joueurs se respecteront plus en faisant ça qu'en se tirant le maillot. Ils se disent « Oh, tu m'emmerdes ici et là. » Je trouve que c'est beaucoup plus beau quand même.
Belle évolution de l'arbitrage. On espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que tu as une merguez?
Là, je pense que je vais faire l'unanimité, je pense.
Tu peux en mettre deux.
Je peux en mettre deux.
Tu fais ce que tu veux.
On va commencer par la plus grande quand même. Tavares.
Ah bon? Je trouve que c'est un super match. C'est un super joueur. Ceux qui le connaissent, il y a Zazoas sur Twitter qui a dit que c'était c'est un super joueur, que je comprenais rien au ballon et que c'était un joueur super qui nous faisait gagner tellement de matchs qu'on pouvait pas le critiquer.
Son placement toujours aussi mauvais. Il joue pas réellement à son poste.
Non.
C'est quoi son poste?
Justement, bonne question.
En tout cas, c'est pas latéral dans une défense à 4, comme disait Hakim la dernière fois.
Mais je me pose parfois des questions.
Dans sa tête, lui, il se prend pour un attaquant.
Je lui dis qu'il a une conscience déjà. Est-ce qu'il y a une voix qui lui parle, qui dit oh, fais pas ci, fais pas ça?
Je pense qu'il y a plusieurs voix qui lui parlent.
C'est incroyable. À ce niveau-là, faire des erreurs comme celle-là, ou des fois, c'est. Bon, voilà, j'ai pas trop de mots maintenant pour décrire Tavares.
T'as la même merguez ou t'en as une autre?
Moi, j'ai Guendouzi quand même. Guendouzi qui se perd un petit peu dans cette équipe. C'est dommage parce que le talent qu'on a pu voir la saison passée...
Même en début de saison.
Oui, même en début de saison, se perd au fil des rencontres, dû à son positionnement, je pense aussi.
Il a pris
sa nervosité, parce qu'en se positionnant là, il perd de sa concentration, il s'énerve et il déjoue. Il déjoue parce qu'il ne se sent pas bien certainement à ce poste-là. Alors après, on te dit, ouais, mais tu joues. Non, mais je veux bien jouer, moi, dans une équipe, mais si je ne suis pas bien positionné dans un rôle qui ne me convient pas... Je ne vais pas bien jouer. Ouais. Donc, je vais perdre de ma qualité technique, tactique, de mon repli défensif, de mes qualités offensives pour apporter aux attaquants. Et là, tu es un petit peu dans le bon, dans le mauvais. En fait, tu es perdu. Et c'est ce qui arrive un petit peu aujourd'hui à Guendouzi. C'est dommage. Parce que de perdre quand même un joueur comme ça. Et en plus de tout ça, il rajoute par la parole et par des échanges des choses qui vont encore plus l'énerver. Et perdre de fluidité dans son jeu.
C'est vrai, toujours fait quand même de râler, de parler.
Oui, mais quand tu es moins bien.
Eh oui, ça se voit plus.
Que tu râles encore plus.
Ça se voit plus.
Tu es encore plus mauvais que ce que tu pourrais être. Parce que tu vas perdre de l'influx, tu vas perdre de la concentration, tu vas perdre du positionnement. Et le nombre de ballons perdus, des relances. Ça, c'est des petits trucs que quand tu es joueur, tu le ressens. Et quand tu t'énerves, un ballon à 10 mètres ou à 5 mètres, des fois tu le donnes facilement, mais tu le donnes 2 mètres à côté. Et c'est ce qui arrive un petit peu à Guendouzi. C'est dommageable parce que si on le perd, on perd quand même un joueur qui est capable, lui, de déclencher le pressing et qui est capable aussi d'harceler les adversaires. Donc c'est un petit peu...
C'est un peu l'âme de l'équipe. Et on va reparler tout à l'heure, si tu voudras.
On va reparler
parce que c'est un peu dans mon actu en vrac. Parce que je pense qu'il partira cet été de plus en plus. Moi, je voulais juste rebondir sur c'est ma fixette. Chacun a ses fixettes. Moi, c'est Tavares. Pour moi, hier, c'est vraiment tout ce que je déteste. C'est-à-dire que le mec... Déjà, moi, je comprends pas que tu dors. Là, il s'amuse à inverser les pistons, OK, les faux pieds, les machins. Mais si c'est pour défendre, parce que lui, il est plus rapide, etc. Mais il ne défend pas, de toute façon. Donc ouais. Je préfère même Klos, qui n'est pas un bon défenseur, mais qui lui va s'arracher pour essayer de défendre, même s'il le fait mal, que lui qui ne fait pas les efforts.
Il le fait, ça c'est certain.
Il le fait. Il le fait pas forcément bien, mais il le fait. Tavares, il ne défend pas. On l'avait vu face au PSG, où il laisse partir Mbappé, ouais. C'est un plot au milieu de tout le monde. Mais là, c'est la même chose. Je l'ai regardé sur... Moi, je fais une fixette, donc forcément, je regarde ce qu'il fait. Sur Toko Ekambi. Toko Ekambi, c'est pas non plus... c'est pas Mbappé, hein. Mais il le laisse partir. Il le laisse jouer. Il va jamais au contact. Il trottine, il est là au milieu, il regarde ce qui se passe. Et ce que je disais hier déjà, c'est que. Et en plus, offensivement, il a vraiment été mal inspiré. C'est, offensivement, il a tout fait à l'envers. Vous avez vu, Ryan me le rappelait. C'est, à un moment donné, il y a une contre-attaque où c'est Sanchez qui a la balle au pied. Il revient, il le double, il lui prend la balle et il va s'empaler dans la défense comme un idiot là.
Ouais.
Mais le QI foot de ce joueur, moi, il m'a fait flipper. Et ce que je dis, c'est un joueur waouh qui peut te mettre des buts de fou. À un moment donné, il a un super centre, tu peux mettre une belle reprise au volet du droit, mais même ça, il ne fait plus.
Mais celui qui met des beaux buts et qui est bon, c'est Nuno. Hein. T'as remarqué que depuis qu'il est mauvais, on l'appelle tous Tavares. Et quand il est bon, on l'appelle c'est Nuno. Vrai.
Mais Nuno,
Nuno, ça fait longtemps
que je pense qu'on l'a un peu trop monté, Nuno. Je pense qu'on l'a un peu trop monté. Et Tavares, le problème, c'est qu'il n'a pas l'esprit de se dire je vais défendre. Comme toi, quand tu faisais tout à l'heure ta petite réflexion, je ne sais pas à quel poste il joue. C'est parce que lui, dans sa tête, il se prend pour Messi ou je ne sais pas, parce qu'il ne défend pas. Donc, juste, je termine. Les deux actions que tu disais de la tête au dernier quart d'heure, deux fois, c'est lui qui est au marquage. Et deux fois, il ne saute pas. C'est le mec, il s'en fout. Je vais rester poli. Il s'en fout complètement. À un moment donné, il y a Guendouzi qui gueule trop, mais qui lui dit oh, il y a une action où tu vois, il se repositionne pas. Il reste là comme si il n'était pas concerné. Il vient défendre, quoi. Non, lui, il défend pas. Enfin, c'est incroyable, quand même.
Mais en plus, tu parlais
toi, Jean-Charles, ça t'aurait fait péter les plombs, hein, toi qui pique comme ça.
Moi, je le dis, ça va une fois, deux fois, trois fois. Enfin, moi, personnellement, et nous, notre génération,
votre génération,
et l'équipe que nous avions, je te dis que ça se passait pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, ou tu travailles pour l'équipe, ou tu travailles pour ton cas personnel. Ouais. Et nous, on ne supportait pas ce style de... Ce qui a fait notre force, c'était le collectif. Après, il y avait des individualités qui se mettaient en avant, bien sûr, ce qui est tout à fait logique. C'est le cas un petit peu de Sanchez, quand il a le ballon, même si hier soir... mais Sanchez, dans ses déplacements, dans ses contrôles orientés, ça élimine, ça cherche à faire quelque chose. C'est toujours, il y a toujours de la réflexion.
Là, tu travailles pour l'équipe.
Et tu parlais des deux pistons, juste pour revenir... le droitier à gauche et le gaucher à droite. Mais en fait, je me demande si ce n'est pas voulu. Parce que Tudor, en mettant Tavares côté droit, c'est pour le faire rentrer sur son pied gauche et frapper au but.
Ouais, mais il ne le fait jamais.
Non, mais à un moment donné, je frappais au but, ça ne va pas faire comme un der à un moment donné, où il avait le ballon, il faisait exploser le ballon et boum, il frappait au but. Ouais. À un moment donné, il y a des passes à donner, il n'y a plus de passes décisives. Tu comprends, il y a, à un moment donné, c'est-à-dire, ben écoute, tu élimines... Feinte extérieure, tu rentres au pied gauche et tu frappes au but. Ouais, mais bon.
Parce qu'il
la loterie constamment. Hein,
ouais, puis est-ce qu'il préfère pas frapper pied droit? On sait même pas. Et le dernier truc négatif.
Et les buts qu'il a marqués, c'est souvent pied droit.
Hein. Oui, c'est ce que je dis. Et le dernier truc négatif, c'est que moi, je pense que si Mbemba, on l'a pas trop vu devant, c'est parce que Mbemba, lui, qui réfléchit, s'est dit ah non, mais moi, si je monte, lui, là.
Mais qui c'est qui va me couvrir?
Qui va me couvrir? Pas lui, en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais pas prendre le risque d'aller trop loin parce que lui, il va pas courir. Donc là, dans le dos, on va se faire déglinguer, quoi.
Il faut savoir une chose aussi. Moi, j'ai un petit peu analysé le jeu de Rongier, parce que bon, c'est un poste que j'aime beaucoup. Et regardez la deuxième période de Rongier, c'est un joueur qui a souvent décroché dans l'axe défensif. Pour couvrir, pour ne pas se faire prendre le piège.
Pour compenser les autres.
Pour compenser le reste. Et cette intelligence-là, c'est rare. Et c'est pas obligé de le voir. C'est-à-dire que ce joueur-là, déjà de la qualité, de la personnalité, mais il a surtout ce sens tactique, qui permet à l'équipe de se rééquilibrer. et de ne pas se mettre en porte-à-faux. Et moi, c'est ce que j'aime chez lui.
Il expliquait très bien. Il disait, Veretout, il est un peu plus offensif que moi. C'est lui qui doit prendre les risques. D'ailleurs, je trouve qu'il n'en a pas assez pris, moi, sur ce match. Je l'ai trouvé un peu trop frileux, Veretout.
Il a un bon ballon.
Ouais. Et il a pu jouer un peu sur les côtés. Et quand il y avait des passes devant, ils avaient un peu peur. Mais bon, je pense qu'ils étaient un peu traumatisés de leurs deux défaites de suite. Mais par contre, Rongier, c'est vrai qu'il est là pour compenser. Et il le fait admirablement bien. Il a encore fait 2-3 sorties de balle aussi. Balle au pied. Et il s'enroule autour des joueurs.
Et l'abattage qu'il a.
Veretout, il a une blessure.
C'était un coup.
C'est un coup qu'il prend, mais c'est presque incertain à un moment.
Oui, parce qu'on avait peur que ça soit une entorse, et en fait, sur l'IRM, tout va bien. Mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé en retenue, mais plus dans l'état d'esprit. Tu vois, c'est un mec qui franchit un peu les lignes, qui fait des passes, qui casse les lignes. Et là, j'ai trouvé qu'il a trop joué sur les côtés ou derrière. Tu vois, je sentais cette équipe, c'est pas que lui, mais un peu frileuse, parce qu'ils avaient un peu peur de se faire contrer. Et bon, il y avait des mecs qui galopent.
C'est-à-dire que tu as pris 2 gifles. Hein.
C'est ça.
Paris et Annecy.
Il faut se remettre de ça.
Une troisième. Ouais. Il fallait une réaction obligatoirement.
C'est clair.
Après, que tu prennes un peu moins de risques parce que tu as peur, mais tu dis on veut conserver quand même un certain résultat. Ouais. Ne pas perdre, parce qu'on sait que nos concurrents directs, qui sont Lens et Monaco, avaient fait match nul. Donc ça aussi,
bien sûr.
Tu comprends, tu deviens un petit peu calculateur, ouais. En fait.
Ouais, et puis Tudor était super content à la fin, ça s'est vu. C'est peut-être un tournant dans la saison de l'OM, cette victoire, comptablement en tout cas. Parce que Rennes, tu les mets loin, on va le voir tout de suite. Tu peux nous mettre le classement, Rian, s'il te plaît. Ah, je te prends...
Non, mais tu veux le classement ou les matchs...
Le résultat.
Peu importe, je te laisse gérer.
On va mettre d'abord le classement, si tu veux, 55 points pour l'OM.
Parce que c'est ça la belle opération, quand même.
Ouais, ça c'est...
Si tu fais un petit trou, t'as un petit joker.
Là, exactement. Tu peux avoir 2 jokers en cas de match nul, déjà.
On revient du coup
à 8 points. C'est devant.
On revient quand même à 8 points du PSG. Monaco, voilà, comme on disait, avec Lens, qui ont fait match nul tous les deux. Et du coup, Rennes, qui est un des concurrents et que... On a pu mettre un petit peu d'écart avec cette victoire.
Rennes est 9 points d'avance.
Ouais. C'est ça. Et Lyon, ils sont pas ça.
À Lyon, Lyon, il faut descendre.
Lyon, je pense qu'ils vont tout jouer sur la Coupe de France.
Bah, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent espérer?
Mais je ferais la même chose si j'étais Laurent Blanc, sincèrement.
Bien sûr, bien sûr.
Aujourd'hui, d'être distancé, compliqué pour revenir accrocher une Coupe européenne, c'est-à-dire lutter, donner beaucoup d'énergie, tout ça... Se concentrer sur deux matchs qu'il reste à faire, c'est pas plus mal.
C'est pas notre problème, mais Lyon, il va falloir qu'ils jouent un peu mieux que ça. Hein, parce que,
mais ça, je suis tout à fait
d'accord. Et attention à Nantes. Moi, pour moi, le favori de la Coupe de France, c'est Nantes.
Et maintenant, vous allez voir, parce qu'on en parle un petit peu moins, parce qu'il y a eu le match nul, c'est Nice. Nice qui avait fait une remontée fulgurante.
C'est vrai.
Avec les prestations qu'il a pu avoir avec Digard.
Avec Digard.
Là, vous allez voir que ça va repasser dans un rythme.
Une normalité, tu veux dire.
Une normalité. Ouais. Et que ça sera un peu plus difficile pour Nice.
Ben ça, ils ont cassé la dynamique.
Là, ils vont jouer, si je ne me trompe pas, du côté de Nantes le week-end prochain.
Eh ben, ça va être intéressant, ça. Tu peux nous mettre du coup, un peu les résultats. On en a parlé, donc on va le passer rapidement.
Ouais, les autres résultats, du coup, plutôt de Ligue 1, pas forcément que ceux de l'OM. Tac, voilà. Donc, ce match nul d'entre Nice et Auxerre avec un bon match d'Isaac Touré. Ouais, on en parlera un petit peu peut-être.
Non, tout je l'ai viré. Donc, tu peux en parler là, si tu veux.
Bon, ben non, mais si des gens ont des questions là-dessus, vous pouvez les poser. Mais voilà.
Mais ça, on peut juste te dire, c'est un prêt qui marche bien.
C'est ça.
C'est rare pour être souligné. Suffisamment rare pour être souligné.
Lens-Lille aussi, qui a été aussi marqué par les prestations, les belles prestations d'un ancien joueur de l'OM, c'est Brice Samba, qui a fait un super match au poste de gardien avec Lens, parce que Lille, ils ont vraiment poussé pour gagner ce match.
Tu as raison de souligner la prestation de Brice Samba, mais sincèrement, je me demande s'il n'est pas à la porte de l'équipe de France. Sincèrement, il tape vraiment fort. Parce que les prestations qu'il est en train de faire aujourd'hui...
J'ai envie de te dire, mais comment il pourrait ne pas y être.
Je vois pas qui pourrait lui prendre la place.
Après, Mandanda Lloris, c'est terminé.
Ouais,
Maignan, c'est clairement le numéro 1.
Ah oui.
Ouais. Pour moi, le numéro 2, c'est lui. Tu vas pas mettre, comment il s'appelle, l'ancien du PSG, là, qui a Fulham.
Areola.
Areola. Bah, non, tu vas mettre Areola, quand même.
Là, il y a la jeunesse, la jeunesse, on peut appeler ça un petit peu la jeunesse. Avec Brice Samba, avec Marc Maignan, avec Lafont.
Lafont, voilà.
Ce sont quand même des joueurs qui arrivent, des gardiens de but qui arrivent, qui ont de la qualité. Donc, mais je pense que Brice Samba, aujourd'hui, sincèrement, si Marc Maignan ne reprend pas, je pense que c'est le numéro 1.
Mais bon, je pense que Maignan, il va
reprendre. Fait un arrêt, bras gauche,
ouais.
Hier. Parce que j'ai regardé un petit peu le match. Sincèrement, c'était samedi. Hein,
si oui, samedi, oui.
Si je ne me trompe pas, c'est rarissime d'avoir un réflexe comme il a eu, il a même ferme.
Ouais. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu mal de se dire que ce joueur-là, il était chez nous
et, souvent,
et qu'on l'a laissé partir par la petite porte.
Souvent, ça arrive avec des joueurs qui, après, trouvent l'équipe de France. qui appartenait à l'Olympique de Marseille, qui font des super prestations. Donc,
bon, il est arrivé sous l'ère Mandanda. Donc
oui. A priori, Mandanda, il n'avait pas trop.
Ouais. Il en a parlé plusieurs fois.
Il en a parlé, ouais.
Et moi, il y a cet épouvantail pour moi. C'est le déplacement à Reims. Alors, bon, c'est pas tout de suite. Mais le déplacement à Reims, je
pas longtemps.
Ouais, je vais arriver.
Le week-end d'après.
Parce que Reims, ils ont vraiment un beau football. Ouais. Le japonais, là, Ito, il est.
Ouais, Ito, ouais.
Avec un coach de 30
incroyable.
Ans.
Ouais. Ouais.
Incroyable. Et juste pour dire qu'on parlait des Olympiens, côté Lillois. Belle prestation de Cabella.
Mais Cabella, il est surprenant quand même.
Il est surprenant.
On le voyait un petit peu, genre fin de carrière, machin, et boum, il rebondit à Lille. C'est étonnant.
Il est dans un système qui est aussi fait pour lui, dans un 4-2-3-1.
C'est un joueur généreux.
Ouais, qu'est-ce qu'il cavale
Puis il a la proposition aussi sur les côtés avec ta Bamba, ta Wea, ta Tazid.
Non, mais ils ont une belle équipe.
Ça joue bien au foot, Lille.
Ouais. Lille, c'est sympa à regarder.
Il y a eu des problèmes défensifs sur cette rencontre-là un petit peu. Mais sinon, je trouve que dans la globalité...
Et on se déplace chez eux bientôt aussi, non ?
Oui, il nous reste Lille et Lens dans le top 7.
Oui, on parlera du classement un petit peu, enfin du calendrier un petit peu,
oui,
peu après. 3, Monaco, donc ça c'est bien pour l'OM, forcément. 3 qui accroche un peu un petit nul face à l'AS Monaco, le PSG qui...
À la 95e quand même.
Ouais, c'est vrai.
Monaco, ils n'étaient pas au mieux quand même. Hein.
Non, ça...
Ils étaient revenus dans un match qu'ils n'avaient pas joué au début, quoi.
Et puis c'était difficile aussi après cette grosse défaite face à Nice pour eux. Et puis après, voilà ce qui nous intéresse un peu peut-être dans les autres matchs. Bon, Lyon.
Ce qui vous intéresse, c'est Strasbourg qui va venir dimanche à Marseille.
Ouais, c'est vrai.
Qui a perdu à domicile face à Brest à une concurrente directe pour la descente.
Et qui nous avait bien fait mal au match aller en égalisant la dernière seconde par Gamero.
Ouais.
Tu parles de Strasbourg,
Strasbourg.
Parce que Brest aussi, on avait eu.
Et on sait qu'ils ont changé d'entraîneur et que c'est Antonetti, si je ne me trompe pas, du côté de Strasbourg.
Antonetti.
Il va falloir s'attendre un petit peu à une équipe bien défensive.
Assez compact. S'attendre et te prendre en compte.
Une certaine rigueur.
Agressivité.
Donc après, il va falloir contourner un petit peu tout ce bloc.
Je serai au stade. Donc venez à la fin de camp dimanche soir.
Surtout qu'on est un peu moins bien à domicile. Donc c'est sûr.
Oui, non, mais là, il faut gagner. C'est un match qui...
En Ligue 1, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de victoire à domicile.
Oui. Il faut regagner à domicile.
Match nul, défaite.
Et je crois qu'il y a déjà objectif match à guichet plein, je dirais.
J'ai fait match plein. Ouais, match plein.
Stade plein et guichet. Non, ils sont déjà à 60 000 déjà. Donc, a priori, ça va être
incroyable.
C'est quand même incroyable. Tu sors de deux claques. La claque en Coupe de France, elle a fait mal.
C'est-à-dire, j'ai échangé, je crois.
Avec Franck qui me disait, non, mais moi, j'ai même pas regardé Rennes. Je suis tellement dégoûté de l'élimination en Coupe de France, je les ai boycottés ce week-end.
Mais attention, la victoire d'hier face à Rennes n'enlève pas tous les doutes des supporters marseillais de cette élimination en Coupe de France.
Ça, c'est sûr.
Mais
la victoire peut te permettre de retrouver un peu de confiance.
Exactement. Il a fallu obligatoirement, comme il a dit Rongier, on a su réagir en homme. Mm. Donc maintenant, il va falloir confirmer en homme aussi face à
Saint-Denis. Et tu as une semaine, tu sors de ce truc de 3 matchs de suite aussi.
Ben oui.
Et ça change beaucoup de choses.
Tu
as le temps de préparer ce match.
On est beaucoup mieux. Rappelez-vous que je disais toujours depuis le début d'année,
quand ça enchaîne,
l'OM, quand ça enchaîne 3 matchs à la semaine, on aura de grosses difficultés. Là, on va tomber malheureusement dans un rythme d'un match par semaine. Donc l'OM va récupérer. Physiquement, ça sera beaucoup mieux.
Très bien. Allez, on va passer au gros débat. C'est l'actu en vrac, c'est tout de suite. Pour débuter cette actu en vrac, on reste un petit peu sur le même thème. Cette émission est très, très travaillée en amont. C'est le calendrier. Calendrier est-il plus favorable ? Parce que justement, on disait que ça se passe un petit peu, mais les équipes qu'on va affronter sont normalement d'un niveau un peu moins fort. Donc Ryan, tu vas nous mettre un petit peu les prochains matchs. On va parler déjà, il y a Strasbourg ce week-end, dimanche, 20h45, Stade Vélodrome, rendez-vous après le match sur le parvis pour faire la fan cam. Ça, c'est dimanche. Mais après, qu'est-ce qu'il y a ?
Juste après ce fameux match face à Strasbourg, il y a le déplacement à Reims. Reims qui effraie Sourinha.
Non, il a pas peur, mais il s'inquiète.
Il s'inquiète, mais c'est normal.
C'est, tout le monde s'est cassé les dents sur Reims. Paris, par exemple.
Mmh. Et tu parlais de Ito, mais il y a Balogun aussi.
Ouais.
Ah, Balogun.
franchement, quand tu le regardes jouer, tu te régales.
Mais je suis pas bien sûr, tu vois, Souris, que Reims soit aussi efficace face aux grosses équipes à domicile plutôt qu'à l'extérieur. Je pense qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup plus libérés pour jouer avec un jeu parfois en contre qu'à domicile. Il va falloir faire un petit peu le jeu puisque tu as démontré des victoires sur l'extérieur. Mmh. D'ailleurs, ils ont eu une difficulté face à Ajaccio. Hein. Ouais. Ils ont gagné 1-0 à la 90e ou un truc comme ça, je ne me trompe pas. Hein,
mais ils s'enchaînent.
Mais difficilement, à domicile.
Bien sûr.
plutôt qu'à l'extérieur, ils ont un jeu qui est plus, plus libéré, en fait, et plus, ça laisse plus d'espace parce que les adversaires, à domicile, enfin, le cas de l'Olympique de Marseille, est obligé de sortir aller chercher la victoire. Donc ça leur donne des possibilités, par leurs deux attaquants que tu viens de citer, d'avoir des actions plus franches et plus réelles.
Et l'OM est plus à l'aise à l'extérieur, en plus.
Eh oui.
Et après, après Reims.
Après, y a une petite trêve du 19 au 31. Donc,
petite vacances pour Yann.
Oui, aussi. Pour certains joueurs également, on souhaite à plus de joueurs possibles de l'OM d'aller en équipe de France et avec leur sélection.
Mais j'ai vu que le petit Caboret était convoqué avec le Burkina Faso, d'ailleurs.
Ouais, ben. Bah, j'espère qu'il va jouer un peu avec eux et que ça va lui apporter un peu. Mais voilà, le 31, du coup, retour de l'OM avec une réception de Montpellier. Montpellier qui se remet aussi, et parce que Der Zakarian est de retour.
Der Zakarian.
On en parlait. Hein.
On en parlait. Mm. C'est vrai que ça marche mieux.
Après, déplacement à Lorient. On va retrouver un Bamba Dieng aussi, là-bas, à Lorient.
Lorient, c'est un peu moins bon aussi. Hein, depuis le mercato d'hiver, ça leur a fait mal. Ouais.
Apparemment, il a joué du coup, le dernier match, je ne sais plus, c'était contre Lyon. Et apparemment, pas mal de déchets de la part de Dieng. Toujours ce petit souci. Ensuite, réception de Troyes. Déplacement à Lyon. Et là, ça, c'est quand même une date à cocher dans le calendrier, le 23 avril, du coup. Déplacement à Lyon pour l'Olympique de Marseille. Ça va être un gros match. Toujours dans ce truc de rivalité, pas forcément au niveau du classement.
Comme disait Tudor, vous avez vu, toutes les grosses équipes sont fait sortir en Coupe de France. Il en reste une, Lyon. Ah ben non, Lyon, ils sont dixième.
Et voilà, c'est sûr que Lyon...
ça va être leur match de l'année, là.
Ouais, on ne sait plus trop comment
c'est un match, ils n'ont rien à perdre, ils s'en foutent, de toute façon, ils sont largués.
Ouais. Ouais, exactement. Et puis après,
11e, 10e, 11e, 12e, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. C'est la Coupe de France maintenant. Ouais.
Réception d'Auxerre, il va falloir quand même faire gaffe un peu à cette équipe qui ne joue pas trop mal.
Oui, en contre.
Ouais. Ils ont changé énormément de joueurs.
Oui, ils ont recruté beaucoup. Ouais.
Ouais, ils ont changé le coach aussi. Donc, il y a eu pas mal de changements. Lens, ce sera le déplacement. Tu en parlais tout à l'heure. Ça, c'est un gros,
ça, c'est
gros
match.
Et c'est possible que les deuxièmes places se jouent à ces dates-là. Parce que début mai, on commence déjà à avoir de grosses indications. Et donc là, de mettre potentiellement 3 points et les empêcher d'en mettre, ça pourrait être intéressant pour aller récupérer cette place, cette deuxième place. Voire plus, on verra peut-être. Je sais que Nico, t'aimes pas ça. On commence à plus trop en parler du titre. Ouais, mais...
Je pense que ça a fait mal parce que tout le monde y a cru.
Ouais,
et quand ils ont perdu contre Paris, ils sont descendus d'un étage alors que ça aurait pas dû. Bon, c'est mon avis personnel.
Non, mais tu as sûrement raison. Réception de d'Angers et puis déplacement à Lille. Ça va être aussi un gros match.
Angers qui est déjà en Ligue 2. Hein.
Ouais, Angers, c'est très très compliqué pour eux ces dernières semaines. Et puis voilà, donc ce déplacement à Lille.
T'as quand même deux déplacements là, serrés là, qui vont être.
Lille et Lens
dans le même mois, tu mets deux fois par là-bas.
Ouais, ça va être difficile. Réception de Brest, t'en parlais Souris tout à l'heure. C'est une équipe qui nous a causé du tort un peu. En début de saison. Et puis après, le dernier match de la saison, ce sera le déplacement à Ajaccio.
Là, c'est vengeance.
Oui, pour le match aller, on se rappelle.
Parce que ce dernier match-là, Ajaccio sera. Son sort.
Sauvé ou pas.
Sauvé ou pas, donc.
Plus possible qu'il n'y ait aucun enjeu. Hein. Peut-être qu'on va assurer notre deuxième place là-bas.
Mais sincèrement, je pense qu'avant d'arriver à Lens,
ce serait bien de.
Si l'OM arrive à prendre encore gratter 2 points de plus sur Lens et sur Monaco. Ouais. Je vois pas comment on ne pourrait pas finir deuxième.
Mais il faut bien négocier cette série de matchs dits abordables et qui ne le sont pas forcément. Il faut faire attention, comme tu dis, Reims, attention, c'est piégeux, etc. Mais sur le papier, si tu retrouves un petit peu ton état d'esprit et ce côté machine que tu avais début 2023, tu as moyen de faire des séries, une belle série, là, je pense aussi.
Bien sûr.
Il faut, si tu veux finir second,
on a toutes
obligé.
Les cartes en main. Hein, après.
La demi-finale de Coupe de France, elle se joue quand?
C'est une bonne question, ça je peux chercher.
Ouais, parce
si
que pour voir le match de Lyon, nous on joue quand Lyon le
pardon, on joue le 23 avril.
Le 23 avril. Il n'y a pas un match de Coupe de France?
Je vais regarder ça, mais.
Attends, parce que Lyon va pouvoir se concentrer peut-être sur ce match de Coupe de France, laisser de l'énergie.
Ce sera le 5 avril. 5 et 6 avril.
5 et 6
avril. Et eux, ils jouent le 5. Ils jouent le 5 contre Lyon, donc 20 jours après, ça va. C'est...
La finale, elle est quand?
La finale, je sais pas s'il y a déjà une date.
Il n'y a pas de date encore?
Je sais pas du tout.
Parce que le championnat se termine le premier week-end de juin.
Le samedi 29 avril. Le samedi 29, la finale. Donc s'ils vont...
La semaine d'après, quoi.
La semaine d'après, s'ils sont qualifiés.
Donc s'ils vont...
S'ils sont qualifiés, avant, c'est ça. Ils peuvent jouer une semaine d'après.
Ils peuvent avoir la finale déjà dans la tête.
C'est vrai. Oui.
Effectivement, ça peut
jouer. Même si ça reste un match... Un gros match, l'Olympico, Ça fait, dans la tête des joueurs, il y a quand même une finale à jouer, s'ils sont qualifiés.
Et puis surtout que la finale est 10 fois plus importante que tout le reste.
C'est leur seule porte de sortie pour l'Europe.
Pour sauver un minimum la saison. Quoi.
Voilà.
Alors, j'ai une petite réflexion, c'est que j'ai piqué à Mourad, donc je rends à César ce qui appartient à César. Il mettait l'OM quand même, et pour l'instant second, a terminé second la saison dernière, avait terminé second avec la fameuse année Covid, etc. C'est quand même un club qui est en train de s'installer quand même sur ce podium. Mais est-ce que finalement, c'est une progression qui n'a pas un goût amer avec ses éliminations en Coupe d'Europe, ses éliminations en Coupe de France? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion, Jean-Charles?
Je suis tout à fait d'accord. Il nous manque quelque chose, en fait. C'est bien beau de consolider cette seconde place depuis 2-3 ans. Si on finit troisième, là, deuxième en fin de ce championnat, ça fera 3 années consécutivement. Je ne me trompe pas.
Non, je ne crois pas.
Deux ans. Un barrage.
Deux ans. Ouais, parce qu'on voilà.
Mais avec trois années de Ligue des Champions.
En 5 ans, ça fera 3 fois en 5 ans.
Donc, il y a une continuité. Maintenant, il faut aussi avoir une continuité sur cette Coupe de France et dans les matchs de Ligue des Champions. Au moins passer les tours. Et la Coupe de France, il faut que ça reste quand même un objectif principal pour l'Olympique de Marseille, pour amener un trophée.
Surtout quand tu bats Paris.
Surtout, alors moi, ça me rend fou parce que, sincèrement, de faire autant d'efforts face à Paris en Coupe de France et face à Rennes et se faire éliminer derrière,
c'est ce qu'il disait, tu dors. Ça serait stupide, et ça a été stupide.
Ah mais stupide, il y a des raisons. Il doit y avoir quelques raisons. Bon, après, on te dit, ouais, ils ont beaucoup joué, peut-être qu'ils ont mal abordé la rencontre.
Mais... Ouais, ils ont pris une claque face au PSG 3 jours plus tôt aussi.
C'est là où je reviens encore une nouvelle fois sur Rongier. En disant, il faut qu'on joue un homme. Maintenant, il faut se replonger dans ce championnat. Il faut avoir des réactions fortes. Ce qu'on a fait, c'était inadmissible. C'était une faute professionnelle. Et le gars, il est courageux de le dire. Et c'est bien ça. Parce qu'au moins, lui, il se remet dans le droit chemin pour nous tirer vers le haut jusqu'à la fin de la saison.
Sourinia, est-ce que pour avoir des objectifs multiples, à savoir le numéro 1, terminer second, mais aussi gagner une coupe et faire un beau parcours en Europe, est-ce qu'il ne faut pas plus faire tourner que fait Tudor? C'est peut-être aussi une réflexion qu'on peut avoir. Parce que Tudor, par exemple, en Coupe de France, est-ce qu'il n'avait pas les moyens de faire jouer des Unai, des Vitinha qui ne jouent pas, alors que face à une Ligue 2, normalement, ils ont le niveau pour affronter... Ouais.
La différence qu'on a... Alors, déjà, premièrement, je pense que ce qui manque, c'est la stabilité. On est second, certes, mais toutes les saisons, en fait, elles se suivent, mais elles se ressemblent absolument pas autant dans l'effectif que dans l'entraîneur, que dans... En fait, ce qui nous manque vraiment, c'est ça. Si on stabilise une seconde place là, il faut continuer comme ça.
Avec Tudor, pas
avec
trop changer l'effectif.
Avec un effectif qui va bien entendu s'améliorer, parce que c'est l'objectif du mercato, c'est ça. Et voilà. Et puis là, on gagnera, en stabilité. Et là, peut-être qu'on abordera les matchs d'une manière un peu différente, parce que je trouve que ce match de Coupe de France, on peut en parler mille ans, hein, mais pour moi, il n'est pas normal, encore une fois, l'engagement. Ouais. Tu ne peux pas être là, à ce niveau-là, tu es second de Ligue 1. Finalement, ça sert à quoi d'être second de Ligue 1 pour t'écraser contre le 10e de Ligue 2? Ça ne sert à rien. Et là, oui, on va assurer notre qualification, je l'espère, en Ligue des Champions. C'est bien, on sera constant sur 2 ans. Mais au final, quel genre de deuxième on est, quoi? Si c'est pour être deuxième et t'écraser encore l'année prochaine, parce que tu vas virer la moitié de ton effectif ou ton entraîneur, je vois pas l'intérêt.
Donc, toi, c'est la stabilité avant.
Bien sûr. On n'en a pas, on n'en a jamais eu.
Reste tout avec Longoria.
Non, mais surtout si. Et là, tu as une nouvelle fois raison. C'est vrai que la stabilité, c'est hyper important parce que plus tu vas recruter, plus ça va prendre du temps et moins ton équipe sera préparée au bon moment. C'est-à-dire que tu arrives aux échéances, savoir ton effectif au complet, sans que le joueur ait travaillé de la même manière, de la même façon avec ton entraîneur.
Surtout avec un coach exigeant comme tu dois.
Et voilà. Donc. Il faut, à un moment donné, constituer ton équipe. Il faut que, mi-juillet, un exemple, pour ton deuxième stage, il faut que tu aies ton effectif au complet.
Et puis, il ne faut pas qu'il y ait 10 départs, 10 arrivées non plus.
Et tu combles le départ par une arrivée. Ça. Pas combler un départ par 2 arrivées ou faire un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'ils sont assez intelligents. Je pense que Longoria, là-dessus, il a su travailler. Maintenant, il faut vraiment que ça se concrétise par une finalité, en fait. Il faut que quelque chose... Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. Il faut que la troisième année, il faut que ça devienne une équipe compétitive avec un rythme de croisière qui soit sur une longue durée et surtout un effectif prêt pour le championnat dès le départ.
C'est vrai. C'est une passe D que tu me fais. Parce que là, j'ouvre un petit peu une partie mercato. C'est la suite logique de ce débat. Là, il y a a priori, l'OM aurait entamé des discussions pour la prolongation d'Alexis Sanchez. On parle d'une ou plusieurs saisons. donc à mon avis c'est une ou deux, sachant que c'est un joueur qui a priori une option, mais c'est rien d'automatique, c'est, il faut qu'il se mette d'accord, il faut qu'il y ait une qualif en Ligue des Champions et que le joueur en vit. Lui-même a dit là en conférence de presse la semaine dernière, moi ce que je veux c'est gagner, je veux pas terminer 5e, 4e, même voire 2e, moi je veux gagner.
Lui il a en travers la Coupe de France.
Ah oui, bah oui.
Ah, lui il a vraiment
la Coupe de France et la défaite face au PSG, je pense que les deux il les a en travers en fait. Il a dit, moi je suis pas venu ici pour terminer second. Donc c'est un joueur très ambitieux. Est-ce que prolonger Sanchez, Sorigna, pour toi, c'est une priorité ?
Une priorité, oui, parce que...
Hésitant un peu, j'ai l'impression.
Je suis un peu hésitant parce qu'il y a un truc qui me gêne chez, chez Sanchez, c'est que, pour moi, le patron de l'équipe, c'est lui, quoi. Il décide s'il a envie de jouer ou pas.
C'est ça. Et ça, c'est un problème pour Vitinha, quand même.
Ça me gêne un peu par rapport à Vitinha, parce que s'il signe un an de plus et qu'il se dit « je vais faire tous les matchs de la saison », il va barrer la route à d'autres joueurs, que ce soit Vitinha ou peut-être un autre qui sera recruté derrière. J'ai un peu peur qu'il ait un totem d'immunité, Sanchez. Alors, je l'adore, le joueur. Hein, mais,
est-ce qu'il joue pas trop ?
Je pense qu'il joue trop, moi.
Et peut-être trop en tant qu'attaquant de pointe. Jean-Charles, toi, comment tu vois Sanchez ? Est-ce qu'il faut vraiment le prolonger ou il faut encore attendre un peu ?
Pas le prolonger de 3 ans.
Non, ça ne se fera pas, ça. Ça sera un an ou deux,
maximum. 2 ans maximum. Je pense que dans la mentalité, dans le professionnalisme, je pense que on a besoin de ce style de joueur qui correspond bien à l'étiquette OM.
L'exigence.
L'exigence. La... Et puis après, il y a la problématique pour Sanchez, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, il a des demandes pour jouer le top. Le top club dans un autre club européen.
Mais est-ce qu'il aura, est-ce qu'il aura une demande avec une place de titulaire ?
C'est ça. Alors, ce qu'il nous démontre ici, c'est quand même assez remarquable parce que tout le monde reste de cul, parce que tu le veuilles ou non, on attendait un Sanchez qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Non, il a démarré en boulet de canon. Ça a été un truc incroyable ce qu'il a pu faire. Et c'est lui qui quand même traîne cette équipe-là vers le haut. Et comme tu dis, les défaites face au PSG et face à Annecy, ça lui restait en travers de la gorge. Donc moi, je le garderai d'abord pour la continuité, par son talent et surtout ce qu'il donne à l'Olympique Marseille et l'image qui fait refléter de cette ville et de ce club. Oui, moi, je suis pour une prolongation. Maintenant, pour le cas de Vitinha, que tu disais, est-ce que Sanchez n'est pas capable de décrocher, laisser Vitinha devant ? Parce que alors là, je ne dirais pas que c'est la faute à Sanchez. Ça serait peut-être l'erreur des dirigeants d'avoir fait signer peut-être un autre attaquant à 32 millions sans pouvoir le faire jouer.
Bamba ne jouait pas déjà.
Pour revenir sur Alexis Sanchez, c'est vrai qu'en début de saison, bon, il arrive et début de saison... Canon, il a un moment de moins bien. D'ailleurs, on le sentait un petit peu moins concerné.
Un peu frustré.
Et puis même, on se posait la question de savoir s'il était vraiment bien chez nous. Au final, là, c'est vrai que sa conférence de presse, en disant qu'il aime Marseille, qu'il se sent bien à Marseille, c'est vrai que c'est...
Mais il veut gagner.
Mais il veut gagner. Le fameux « mais » qui est derrière. Ouais. Mais bon, je suis plutôt quand même content pour une fois de l'entendre parler de
ça. C'est ambitieux, en fait. Voilà. En fait, c'est ambitieux. Ce qu'il dit, c'est ambitieux. Il peut gagner n'importe où ailleurs, mais il faut qu'il arrive à les gagner aussi.
Et lui, il a déjà gagné dans des grands clubs. Oui. Donc, c'est pas un mec qui vient et qui parle.
Il avait 27 ou 26
ans. Bien sûr.
Un mec de son âge, alors je sais pas s'il l'a dit pendant la conférence, peut-être, est-ce qu'il a parlé notamment d'être là aussi pour aider les jeunes joueurs à progresser. Le problème est aussi peut-être un peu là, parce que c'est ce qu'on attend aussi de Sanchez.
J'ai l'impression qu'il vampirise un peu cette attaque, c'est ça. Et il n'arrive pas à ne pas jouer. J'ai l'impression que, comme tu le disais, c'est un peu lui qui force la main des fois à Tudor, que Tudor lui dirait bon, peut-être que ce match-là, tu dis non, je veux jouer. Je pense qu'il veut jouer, il veut jouer, il veut jouer. Et du coup, Vitinha, ça, on ne le voit pas assez, moi, je pense.
Mais peut-être qu'il est conscient que si lui sort de l'équipe, l'équipe est vraiment amoindrie.
Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais après, il lui a quand même sous-entendu je veux gagner et j'ai envie d'avoir des coéquipiers avec moi qui veulent gagner. Aussi. C'est pas sous-entendu anodin quand même.
Tu vois, en regardant, on va certainement en parler, mais Guendouzi, qui joue pas à ce poste, et Sanchez, il le voit quand même. C'est un footballeur, il le voit ça. Il peut très bien dire à son coach, écoute, Vitinha devant, moi je me sens d'aider un peu plus l'équipe à reprendre ce poste-là.
Oh, puis là, maintenant, en plus, t'as même Malinowski et Under qui peuvent jouer derrière.
Unai aussi, t'as
du matos quand même. T'as du matos. Et Payet qui est carrément oublié. Justement, je vous demande pas de réagir là-dessus. Il y a une petite rumeur qui est sortie aussi. L'OM serait intéressé par Iker Bravo. C'est un jeune attaquant espagnol qui est prêté par Leverkusen au Real Madrid. Mais il y a des gros clubs dessus. Il y a Liverpool, a priori, c'est un jeune talent.
Donc, c'est des gros clubs, il n'y a pas pour l'OM.
C'est ça. Il y a des gros clubs dessus. Mais bon, je pense pas que l'OM va remettre beaucoup d'argent sur un attaquant alors qu'ils viennent d'en mettre 32 sur un mec qui joue pas. Non, je voulais parler de Bailly. Bailly, futur boulet pour l'interrogation. Pourquoi ? Parce que en cherchant des informations sur cette fameuse option d'achat de Bailly. A priori, c'est un prépayant entre 2 et 3 millions d'euros avec une option d'achat de 10 millions d'euros. 400 000 au moins par mois. Écoutez bien, parce qu'on l'avait oublié. Info RMC et l'équipe, je précise. Cette option d'achat sera levée si il joue 50% des matchs de la saison. Donc là, il en est loin. Il a joué que 9 matchs en Ligue 1 cette saison. C'est quand même sur 26 journées.
Moins que 10.
Il en manque beaucoup. Soit l'OM se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Et là, moi, ça m'a fait flipper quand j'ai lu ça. J'avais complètement oublié ce détail. C'est-à-dire que si l'OM finit second, Bailly, il est directement à l'OM, contrat de 2 ans. Alors bon, je ne suis pas sûr que ça soit... C'est une information, l'équipe RMC, c'était au début quand il avait signé. Il faudrait avoir confirmation du club, donc toujours mettre un peu des... Toujours prendre avec des pincettes. Mais c'est quand même deux gros médias qui arrivent en général à avoir des bonnes informations. Si c'est vrai, je prends un peu des pincettes, ça veut dire qu'on va scoltiner Bailly l'année prochaine ?
S'il n'a pas de club, il restera là.
Mmh. C'est ça ?
Je te le dis, c'est très clair. Bailly ne joue pas d'abord, si je ne me trompe pas, une petite interview de Bailly, il avait déclaré que c'était pas sûr qu'il devrait rester à l'Olympique.
Il se voyait bien repartir en Espagne.
Voilà. Donc il y a déjà ça. La problématique, c'est que Bailly ne joue pas à l'OM. Où est-ce qu'il va jouer ? Avec les blessures qu'il a eues cette saison, les performances qu'il a pu faire quand il était titulaire. Et si maintenant que tu termines deuxième, tu dois te le garder.
Avec un énorme salaire.
Avec un an de salaire très élevé, il a besoin d'être
très bon.
2 ans
de contrat, plus de 400 000 euros par mois.
Donc, alors ça serait... Aujourd'hui, alors où on en parle, ça ne serait pas un bon coup pour l'OM.
Non, je suis d'accord avec toi.
Après, je ne sais pas si la saison prochaine, il n'a plus de blessure ou qu'il retrouve toutes ses sensations. Ça peut être tout autre chose. Mais aujourd'hui, à l'heure où on en parle, Bailly n'est pas un bon coup pour l'OM.
Non. Et d'autant qu'ils l'ont mis un peu dans le formol pendant la Coupe du Monde. Ils ont fait toute une préparation physique pour enfin jouer 2 matchs de suite sans se péter, etc. Il commence l'année 2023, boum, suspension de 7 matchs. Le mec, on le voit plus titulaire. Il le met titulaire face au PSG. Il prend une danse par Mbappé. Et depuis, on ne l'a plus vu. Ça fait 2 matchs, il a disparu, Bailly.
Donc je me dis, que dans l'état
le coach ne compte pas sur lui. Quoi.
Non, voilà, c'est ce que je vais te dire. Je pense que dans l'état d'esprit de notre entraîneur Tudor, il ne fait pas partie des priorités.
Non, il préfère faire jouer Rongier à sa place.
Il le met quand même titulaire contre le PSG. Hein.
Ouais, ça, c'était étonnant.
Oui, mais parce qu'il manquait quand même des joueurs, si je ne me trompe pas. Non.
Oui, Balerdi était suspendu, voilà, et Gigo blessé. Non, mais donc bon, c'est vrai, et Mbemba suspendu.
Après, moi, Bailly, je me pose toujours une question aussi, c'est est-ce que... Déjà, il a un ego, on le sait, le voit. Il a
une arrogance.
C'est très arrogant. Et si tu dors, moi j'ai cette impression, et j'ai discuté avec Gilles Castagno, l'auteur du bouquin qui est juste là, il a vraiment une haine contre Bailly.
Ah oui,
et
c'est son
moi j'ai l'impression que ce mec ne veut pas appliquer ce que tu dors, les consignes du coach. Quoi. Mmh. Il en fait qu'à sa tête.
Mmh. Il se prend pour un autre Bailly.
Un peu comme Tavares.
Mmh. Ouais.
C'est pour ça que tu mets les deux sur le même côté de Mbappé, tu prends des risques quand même.
Ben, tous les amis, les deux sont passés au travers. Hein.
C'est bon. Non, ce serait une très mauvaise nouvelle s'il restait.
Ouais, on espère que c'était une mauvaise information. On espère.
On l'espère parce que, en fait, il faut regarder un petit peu la bio de Bailly. Si on regarde ses 4 dernières saisons ou ses 3 dernières saisons.
Bah, depuis qu'il est à Manchester, il a été tout le temps blessé.
Très très peu de matchs, beaucoup de blessures. Donc ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'il prend de l'âge chaque année. Le corps. Eh bien, il vieillit en même temps que.
Ouais, et puis quand t'as beaucoup de blessures, ça abîme. Donc tu compenses, etc.
Tu compenses à droite, à gauche. Même quand t'es joueur, tu y cogites à tout ça en se disant si je fais ça, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, un mois, je peux encore me péter. Donc ça reste fragile.
Et on a vu au moment du match OM hier, quand il y a ce fameux coup de pied, parce que l'image a fait le tour d'Europe, hein, et je voyais des supporters de United qui disaient Bailly qui fait du Bailly. C'est-à-dire que même eux sont au courant vraiment de
parce que s'il a de la déconcentration dans son jeu.
C'est assez bizarre.
C'est étonnant.
Les qualités, les arts.
Il les a. Bah, techniquement, il est plutôt bon. Il court assez vite, vu son gabarit.
En fait, il se disperse.
Il se perd. Donc, ça serait une très mauvaise nouvelle. Allez, on va conclure là-dessus. Je voulais faire un petit débat sur les pistons, mais on ne va pas avoir le temps. Il est déjà presque l'admi.
On aura le temps de le faire.
On le fera plus tard. Il n'y a pas de souci. Parce que je pense que c'est la priorité de recrutement pour moi, les pistons. Parce que vu le jeu de Tudor, si Tudor reste, il faudra recruter les pistons. Je voulais terminer avec Guendouzi. Est-ce que ce n'est pas le début de la fin pour Guendouzi, je vous donne quelques stats quand même. Il a joué 24 matchs sur 26 de Ligue 1. Donc c'est un titulaire...
En tant que titulaire ?
Non, pas en tant que titulaire. Mais la majeure partie en tant que titulaire. Mais par contre, ce qui est plus marquant, c'est en 2023, sur 10 matchs de Ligue 1, il a été 3 fois remplaçant et il a été sorti 3 fois à la mi-temps. Donc je trouve que le statut de Guendouzi a complètement changé depuis la Coupe du Monde. Il jouait, comme tu le disais Jean-Charles, il ne joue pas à son poste, que ça soit milieu offensif. Et même, j'ai envie de dire, dans le milieu à deux, devant la défense, c'est plus son poste, mais c'est pas non plus son poste. Parce que c'est trop restrictif pour lui. Et finalement, comme certains joueurs, comme Under par exemple, son poste a disparu. Et il a un peu compensé en début de saison par son énergie, etc., en jouant plus haut, dans une équipe un peu plus défensive que maintenant. Et je trouve que maintenant, depuis que Tudor a pris un virage un peu plus offensif, et il a un peu perdu sa place. Et je trouve qu'il a perdu sa place et il perd son football. Donc, son départ me paraît totalement inéluctable cet été. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'OM a déjà su travailler sur sur le problème Guendouzi, puisqu'on en parlait déjà au mois de décembre sur le marché hivernal. Il doit être conscient un petit peu de cette situation. La problématique pour Guendouzi, le joueur en lui-même, c'est qu'aujourd'hui, le joueur a perdu de sa ferveur, de sa qualité et de sa place en équipe de France.
Oui, et de la confiance.
Je ne suis pas bien sûr que le prochain rassemblement de l'équipe de France, Guendouzi, puisse être sur la liste.
Ah, peut-être Rongier à sa place.
Peut-être Rongier. Alors, un gars qui arrive et qui fait la Coupe du Monde, qui fait partie de l'effectif de la Coupe du Monde, et qui se fait éliminer en finale, et qui se retrouve remplaçant à l'Olympique de Marseille, et qui sort à la mi-temps au bout de 45 minutes, ça fait cogiter énormément. Mmh. Et surtout, ça énerve le joueur. Et on connaît le caractère de Guendouzi, qui est un joueur qui a besoin de grinta, qui a besoin de se défouler sur un terrain. Et ça, il ne l'accepte pas. Mmh. Et même quand il n'accepte pas, il essaie de faire du mieux possible. Mais malheureusement, dans un poste qui ne lui convient pas du tout, dans un rôle qui ne lui convient pas du tout, eh bien, il est en déséquilibre dans le jeu marseillais. Peut-être qu'ailleurs, ça serait mieux. Mais à l'OM aujourd'hui, avec ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à l'image de Guendouzi.
C'est vrai. Alors, avant de te donner la parole... Juste après, c'est la fac. Donc, question de points pour aider l'ami Ryan. Ton avis sur Guendouzi, et on trouve qu'il s'est un peu perdu. Guendouzi, c'est plus le Guendouzi même du début de saison.
Guendouzi, c'était l'emblème et
l'âme un peu.
L'âme de cette équipe. Et elle n'est plus là. Pour moi, elle est en train de s'éteindre. Depuis ses rumeurs de départ, alors on sait qu'il a refusé de quitter l'OM cet hiver.
Il n'y a pas eu d'offre. Il y a eu des discussions a priori avec son entourage.
30 millions, quand même, ça fait.
Voilà. Non, il n'y a pas eu d'offre a priori.
Il n'y a pas eu d'offre, mais.
Non, il n'y a pas eu d'offre. Il y a eu des discussions entre des clubs anglais et son entourage, mais les clubs anglais, lui, a dit je ne veux pas partir maintenant. Voilà. Du coup, il n'y a pas eu d'offre directement à l'OM.
Et moi, il a fermé la porte immédiatement, donc ça montrait l'implication qu'il a à l'OM. Moi, je suis très déçu de Tudor sur le cas Guendouzi.
Tu trouves qu'il a mal utilisé ?
Je pense que c'est aujourd'hui. Si demain Guendouzi quitte l'OM, connaissant le personnage, du moins son caractère, je pense que Tudor risque d'en prendre pour son grade.
Après, Tudor et Guendouzi, on sait que ce n'est pas une grande histoire d'amour. Ça, on le sait tous, c'est une notoriété publique. Après, sportivement, c'est difficile de jeter la pierre à Tudor parce que le duo Verretou-Rongier, que moi, je ne voyais pas du tout complémentaire en début de saison, force est de constater que ça marche.
Bien sûr.
Ça marche et ça marche très bien. Donc, tu le fais jouer où, Guendouzi ? À partir du moment où tu as ce duo-là. Dans son système de jeu, Guendouzi, il a bricolé ce poste de milieu offensif, mais sinon...
Ouais, mais en le faisant jouer dans un rôle qui n'est pas le sien, tu perds en fluidité, tu perds en efficacité. Donc, quel intérêt aussi de le faire jouer ?
C'est ça.
Est-ce que tu vois
ce c'était le statut, je pense. Et tout ce qu'il a amené en volume...
Et au terme de cette saison, est-ce que tu espères en tirer 30 millions, du coup, quand tu vois ça ?
Là, la cote, elle va baisser.
Finalement, la cote va baisser. Il joue moins, il est moins bon sur le terrain.
Si on arrive à le vendre 10 millions, c'est beau.
Bon,
tu verras.
Tu crois 10 millions. Moi, je pense que tu peux
alors, monter un peu plus. Alors, il y a un club fou en Angleterre. Non, mais je te dis, on va te donner 15, 17.
Non, mais les Anglais, pour eux, 20, c'est 2 pour nous. Et le truc qu'il y a, c'est que tu peux jouer sur le truc. Guendouzi, si je le remets dans un système à 3, par exemple, au milieu, il va retrouver de sa superbe. Et c'est quand même un mec qui faisait partie de l'équipe qui était en finale de Coupe du Monde. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs qui peuvent... Si tu veux faire le vendeur de Guendouzi, tu vois, tu peux trouver des arguments. Quoi.
Il a fait quand même beaucoup de voyages en Angleterre.
Il l'a fait qu'Arsenal.
Ouais, Arsenal et...
Non, c'est tout.
Il était à Berlin.
Il était à Berlin une saison.
C'est ça.
Et Arsenal, quand il était...
Donc ça voudrait dire qu'à Arsenal, quand il est parti d'Arsenal, il n'y a pas un club anglais qui l'a voulu.
Non. Mais le truc qu'il y a, c'est que quand il est parti d'Arsenal, ça se passait mal avec Arteta. Il y a eu des embrouilles avec l'histoire de joueurs. Mais par contre, au début, quand il arrive tout jeune de Lorient, c'est Emery. Et ça se passe très bien avec Emery. Et c'est Emery qui est à Aston Villa qui veut le récupérer. Donc il y a aussi une question de coach. Donc si le coach insiste, 20 millions pour Aston Villa, à mon avis.
Marseillais, Aston Villa, là.
Ben, Camara, ça marche bien. Ils en sont contents. Donc,
Camara, c'est le meilleur.
Donc, ils se disent, Camara, ça marche bien.
Quelle belle affaire.
Ben, voilà. Donc, ils se disent, peut-être que Gandouzi...
S'il part Aston Villa, on va s'en mordre les doigts.
Ouais, mais bon, est-ce que je trouve qu'il a plus sa place.
Il a plus sa place, mais
dans ce rôle, il a plus
sa place. Ouais, mais, voilà. Dans ce rôle. Mais est-ce que Tudor, il peut proposer autre chose? Moi, je pense.
Ouais, mais bah, le problème.
Pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Non, j'ai aussi proposé de faire tourner un peu plus son effectif au milieu, et c'est tout. Ouais, c'est
parce qu'à un moment donné, il faut savoir une chose, c'est que si tu es qualifié en Ligue des Champions direct, il va falloir quand même un banc assez large.
Oui, c'est ça.
Il va falloir faire tourner aussi.
Et l'utiliser.
Les grands clubs font tourner leurs joueurs. Après, c'est une question de psychologie. Mm. Comment tu abordes psychologiquement un joueur, comment tu lui expliques, comment tu vas le faire jouer, comment tu attends de son rendement, il y a un tas de choses, pour le garder toujours sous pression. Tu ne peux pas éliminer un joueur, et ne plus le faire jouer, et puis d'un coup tu dis, tiens, je vais te reprendre, je te mets au milieu. Ouais. Et là,
mais je pense que il a l'impression d'être déclassé, ouais. Gendouzi, aujourd'hui.
Et au-delà de son rendement, ses qualités sur le terrain, il y a aussi, c'est un pilier du vestiaire. Ouais. Et tu peux perdre aussi ça. Tu vois, c'est Tam qu'il y a dans le vestiaire, celle que Payet a également apporté. Et je pense que Payet l'apporte encore aujourd'hui, hein, même s'il ne joue plus.
Il est un peu en retrait maintenant.
Il est un peu en retrait aussi.
Non, je pense que c'est un homme de vestiaire comme Payet.
Oui, ouais. c'est le papa.
Il fédère quand même.
Et tu vois, il y a ce truc, tu as l'impression qu'il faut absolument se plier aux exigences de Tudor. Si jamais tu ne te plies pas, on te fout ailleurs, dans un autre poste. On te, voilà.
Mais après,
la difficulté avec Tudor, pardon Nico, c'est que quand il se confronte à un joueur qui a du caractère comme lui...
Ça clash. Ouais. Ouais, parce que Tudor, il est cash.
Et comme c'est lui le responsable de l'équipe, il sort le joueur qui a autant de responsabilités que lui, autant de caractère que lui. Et là, à un moment donné, ça pète.
Mais moi, je suis d'accord avec vous, mais le seul bémol que j'ai, c'est Tudor, c'est le coach et son système, il est comme ça. Et je me dis que même s'il faisait jouer davantage au milieu, Gendouzi, il serait jamais comme il a été avec Sampaoli. Parce que ce système à deux, c'est pas pareil. Ou alors, il faudrait qu'il joue avec Rongier, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Gendouzi-Rongier, pour moi, c'est plus équilibré. Parce que c'est lui qui aura un peu le rôle du mec qui va vers l'avant, qui peut casser cette première ligne qui faisait balle au pied très bien. Par contre, quand il a le rôle de Rongier avec Veretout, comme il a fait là, ces derniers temps quand Rongier joue en défense centrale, il a un rôle ultra défensif qui lui correspond pas pour moi. Ouais. Tu le perds. Donc il y a un équilibre aussi à trouver. C'est Veretout qu'il faut sortir. Et j'ai l'impression que Tudor, il y a certains joueurs, il veut jamais les sortir. Ouais. Si Veretout, il peut encore marcher, il jouera. Donc c'est aussi ça, l'équilibre à trouver. Bon, on a fait un petit peu le tour de tout ça, c'était intéressant, tous ces débats sur cette équipe. Et on va tout de suite passer à la fac. What the fac, c'est tout de suite.
Non, allez, c'est bon.
C'est ton moment.
Il y avait le jingle est parti au bon moment, ne t'inquiète pas.
C'est pas de cette efficacité tout le temps, tu vois. Des fois, j'ai un autre acolyte.
Non, il y a des petites infos là qui viennent de sortir, pas forcément sur l'homme, mais ça peut nous impacter également. Neymar, fin de saison.
Ah.
Ouais. Il reviendra.
Est-ce que c'est une surprise?
Il reviendra dans 3 à
4 mois. Après
l'anniversaire
de sa sœur, le carnaval et quand le PSG sera éliminé en Ligue des Champions. J'ai envie de dire, c'est une tradition Neymar.
Ouais,
toujours une blessure au moment du match clé en Ligue des Champions.
J'ai eu des échos tout à l'heure, en fait. On était ensemble avec souris, effectivement. Il y a de gros soucis avec sa cheville.
Mais en plus, ils l'ont mis sous infiltration pendant toute la Coupe du Monde. Hein.
Il est incertain, effectivement, jusque...
Bah, ils ont communiqué, ils ont fait un point médical, le club, dans un communiqué. Et 3 à 4 mois pour Neymar.
Fin de saison.
Du coup, t'es même pas sûr qu'il reportera le maillot du PSG.
Ah, s'il part...
S'il part à Chelsea. Chelsea, ils ont plus à ça après. Non, mais après, j'ai envie de dire...
Ça souhaite pas le mal aux joueurs, à n'importe quel joueur français, parce que.
Non, c'est pas ce que j'allais dire.
Quand tu es joueur ou ancien joueur, tu souhaites pas le mal.
Je voulais pas souhaiter du mal à Neymar, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PSG.
Bah, du coup, une mauvaise pour nous.
C'est une bonne nouvelle, mais le bail.
Sportivement, mais pas financièrement.
Non, mais ça, je m'en fous. Mais sportivement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux. Parce que l'équipe sera toujours mieux équilibrée sans lui. Je pense que ça sera plus simple d'organiser l'équipe sans lui.
Ouais, je pense aussi.
Bref, mauvaise nouvelle sportivement pour nous.
Plus facile, voilà, c'est plus facile pour l'organisation du jeu qu'il ne soit pas là, mais plus difficile pour un banc beaucoup plus large.
Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui.
Parce que là, ils s'en vont qu'avec des jeunes.
Hein. Ah oui, ça c'est sûr.
Ils ont beaucoup de jeunes, mais
pas trop de. C'est pas les solaires et compagnie qui vont se changer.
S'il était de retour et qu'il faisait un peu des cagades sur le terrain, on pouvait se prendre à rêver de.
Parce qu'il faut savoir
chercher
une chose,
un titre, mais là.
Alors, même si on n'est pas pour Paris, on est quand même pour les points de l'UEFA. Rappelez-vous, mais il faut se dire une chose que
oui,
la dernière élimination de tous les clubs français.
Oui, je sais.
On est à la limite de perdre la deuxième place
non,
de
je
la
sais,
qualification
je sais. Surtout,
direct.
Surtout face aux Pays-Bas.
Si après. Paris se fait éliminer, on peut perdre cette deuxième place.
Les Pays-Bas, c'est vrai.
Alors attention.
Mais pour autant. Je suis un petit peu bavarois.
Bon, on verra ça. C'est ce mercredi. Là,
ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Si vous voulez suivre ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a Bill. Alors, ça, c'était le moment où on parlait des matchs de Ligue 1, les résultats. C'est vrai que j'ai pas beaucoup trop parlé de ce match de Nantes face au PSG avec un beau but de Ludovic Blas. Et justement, ouais. Bill.
Ça, c'est un nom qui revient souvent.
Ouais. Et là, il nous dit, mais en vrai. Ça peut être pas mal, Blas. Qu'est-ce que vous en pensez d'aller le récupérer ?
Qu'on évoque Blas.
Il a re-signé, si je ne me trompe pas.
Ouais. Mais là, il confirme de plus en plus. Là, en plus, face au PSG, il fait un plutôt bon match.
Alors,
est-ce que le cap, il est en train de le passer ? Est-ce que
si
il pourrait...
je peux me permettre.
Oui.
Il y a quand même Harit qui va revenir.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il y a du monde là maintenant. On le disait tout à l'heure. Malinowski.
C'est bien beau.
Under, Harit. Oui.
J'aimerais bien qu'on nous pose un petit peu. Pas qu'on nous pose des questions, mais qu'on nous annonce des noms un peu plus défensifs. Parce que pour moi, le chantier, il se trouve derrière. Il ne se trouve pas devant.
Je suis d'accord. Et sur les côtés, j'ai envie de te dire.
Oui, et un peu sur les côtés. Mais déjà, tu les as, les joueurs de côté, plus... Enfin...
Eh non.
Klaus, tu l'as.
C'est tout.
Je suis d'accord. Mais, tu as des joueurs dans l'entrejeu, quand même.
Oui, mais je parle sur les...
Après,
sur
le système, il va demander...
Sur les côtés, Jean-Charles, c'est quand même l'essentiel du jeu de Tudor. Les pistons
ont
un rôle prépondérant. Et aujourd'hui, tu as Klaus... Très bien. Et moi, je trouve qu'il devrait arrêter de le foutre à gauche. Mets-le à droite. Il est très fort. C'est un de tes meilleurs joueurs. Mais après, Tavares, il est prêté sans option d'achat. Et Caboret, il est prêté avec une option d'achat, comme s'il n'y avait pas d'option d'achat. Donc, au final, si ces joueurs-là, il n'y a pas de négociation, tu vas te retrouver avec un seul latéral. Et pour moi, un seul piston. Et pour moi, il en faut quatre. Parce qu'il faut que tu aies des doublures efficientes pour pouvoir justement jouer sur tous les tableaux. Parce que c'est hyper. Ils se crèvent, les pistons.
Tu vois, concernant Blas. Je comprends pourquoi la plupart des supporters de l'OM aiment bien Blas. Bon, j'en fais partie de ceux qui adorent. Tout simplement parce que nous, on a l'habitude de voir jouer Payet. Et quand on voit Payet, on voit du Payet chez Blas. Quoi.
Oui,
il y a un truc, tu vois,
footballistiquement
parlant, voilà, une certaine élégance. Et honnêtement, moi, je le vois comme un successeur de Payet. Mais il y a des similitudes. C'est peut-être pour ça qu'on est plus sensible à ce type de football. Parce que quand tu as eu l'habitude de voir Payet jouer, bon, bah, c'est sûr que tu vois un mec comme Blas, t'es séduit par son jeu et sa qualité. Et c'est vrai que c'est très élégant, hein, Blas.
Mais Blas, il a. Carglass remplace. Blas, il a encore deux ans de contrat, parce qu'il a prolongé, comme tu disais, Jean-Charles. Et c'est un gaucher. Genre. On a déjà Malinowski, Under, Blas. Ça fait beaucoup de gauchers pour le poste de milieu offensif, quand même.
Mais il était pressenti.
On
n'a
pas des retours là, qui doivent aussi revenir
pas ces positions-là, je crois pas.
Radonjić, c'est Terminado. En juin.
Mais le petit américain.
Ah, il y a Conrad aussi, c'est vrai.
Conrad.
Oui, bon, je pense qu'il sera liquidé. Il sera liquidé
dans l'été. J'espère. J'espère qu'il trouvera un club où il pourra jouer, mais.
Je pense qu'il sera liquidé dans l'été, parce que là il joue plus du tout. Il est resté à Olympiakos en plus. Je crois.
Ouais, il est resté là-bas.
Et il joue pas.
Non, il joue pas. Il joue pas.
Mitchell n'a pas vu en lui le Nkoudou qui.
Sincèrement, je pense que le chantier est plus derrière et sur les pistons. Pour moi, parce que maintenant tu as pris Vitina quand même qui est devant.
Surtout si tu gardes Sanchez.
Soit disant leur fait confiance, si tu gardes Sanchez, bien sûr.
Non, je suis d'accord avec toi.
C'est que Sanchez reste
toujours. Non, je suis d'accord avec toi. La priorité, ça va être les pistons, je pense qu'il y a trois joueurs à recruter peut-être, si tu regardes aucun de ceux qui sont prêtés. Et derrière, si tu arrives à liquider Bailly, bon, on a vu que là, il y a peut-être un truc qui va se compliquer. Si Balerdi est transféré, ce qui est aussi une possibilité, il y a eu des touches cet hiver, tu as le retour d'Isaac Touré, mais il va te manquer quand même, tu vas te retrouver avec Mbemba, Gigot et Isaac Touré. Donc il va te falloir te recruter deux, trois joueurs peut-être, deux joueurs au moins.
Surtout un très bon joueur d'expérience. Oui, c'est surtout ça qu'il faut.
Pour revenir sur la question qui concernait Blas.
Merci de garder un peu le fil de cette émission.
En plus, j'adore le joueur, vraiment. Donc je suis totalement d'accord avec la personne qui a posé la question.
Bill.
Si tu veux, là, il a prolongé deux ans. Nous, on est surchargé au milieu. C'est mort. Il va partir, ce mec-là, il va aller dans un autre grand club. Certainement, il va être très sollicité, je pense.
Ça dépend. Si Under,
on fait référence au but qu'il a marqué contre le PSG.
Oui.
Et puis on peut aussi faire référence au match qu'il fait à domicile contre la Juve, où il a été excellent aussi. Il met cette fameuse passe, un peu une genre de talonnage, je ne sais plus comment il fait, en tombant, enfin bref.
Non, mais c'est
un
bon joueur.
Il y a beaucoup de classe chez ce joueur.
Après,
vraiment.
Je pense qu'il peut y avoir une place pour lui si tu as une belle offre pour Under. Après, Under, j'ai l'impression qu'il est quand même dans les petits papiers de Tudor, mais à la base, l'OM essayait
de... Mais vous voyez, on parlait de continuité. Ouais. On ne peut pas chaque année détruire une équipe, reconstruire...
Mais là, le problème, Jean-Charles...
Under, maintenant, il connaît le public, il connaît le stade, il connaît ce qu'on attend de lui, c'est la pression qu'il peut avoir.
Mais là, Jean-Charles, pour moi, tu vois, je pense que dans la logique de Longoria, il avait dit d'ailleurs en conférence de presse, quand il avait expliqué son mercato, c'est lui, il est pas là pour vendre les joueurs, entre guillemets, d'une trentaine d'années. Ils sont là pour être des cadres et s'installer, les ronger et compagnie. Ils l'ont fait prolonger, c'est pas par hasard, ils veulent le garder, sauf offre mirobolante. C'est pas des joueurs qui sont censés partir. Par contre, les jeunes comme Guendouzi, comme Under, qui est jeune, hein, Under, je sais même pas s'il a 25 ans, et Ballardi aussi, qui est jeune, ces joueurs-là, s'il y a des offres, ils seront vendus. Par contre, c'est là où ça va faire peut-être trop de mouvements, c'est parce que tu as encore des prêts. Et il faut se débarrasser de ces histoires de prêts, parce que Tavares est un prêt, Bailly est un prêt, Caboret est un prêt. Si ces joueurs-là, pas ces joueurs-là en particulier, mais si ces postes-là, c'était pas des prêts, tu aurais peut-être 2-3 départs que tu remplaces. Et là, c'est intéressant. Là, c'est encore les prêts qui vont te bousculer peut-être trop l'effectif.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais l'avantage que tu risques d'avoir à la fin de cette saison, c'est que tu es... On croise les dents.
Si tu es en Ligue des Champions.
Si tu es en Ligue des Champions, l'attirance vers l'Olympique de Marseille
est beaucoup plus forte. Stabilité.
Donc, ça peut permettre même à des joueurs libres de venir à l'OM et de jouer la Ligue des Champions.
Le petit Guerrero de Dortmund.
J'aime bien. J'aime bien.
Allez, Ryan, est-ce que tu as une autre question ?
On a Seb, il dit « N'avez-vous pas peur que le manque de rotation et du coup donc du manque de fraîcheur physique du 11, ça puisse avoir de lourdes conséquences sur le classement final, même s'il reste un match par semaine ?»
Je pense que ça a eu la lourde... Enfin, je vais vite faire mon avis. Pour moi, la conséquence, on l'a eu, c'est l'élimination en Coupe de France, parce qu'il ne fait pas assez tourner. Par contre, maintenant, tu vas avoir tout le temps une semaine de récupération, et cet effectif-là, il peut jouer toutes les semaines sans problème.
Et puis surtout, ils peuvent mettre 2-3 joueurs à la place d'autres.
Oui.
Sur une semaine de récupération.
Mais il n'est même pas obligé. Quoi.
Voilà, il n'est peut-être pas obligé, mais si vraiment il y a un joueur qui est fatigué ou deux joueurs, la rotation peut être plus facile.
Entre les suspensions, les petites blessures, ça, il va être déjà obligé de jongler un petit peu.
C'est vrai que cette saison, on a la différence des autres, c'est qu'on a un banc. Donc il y a la rotation. Je me souviens, il y avait un moment, on avait le banc, t'avais Guendouzi, Payet.
T'avais le banc du PSG, tu veux dire.
T'as quand même un banc qui pour le coup est là et assure.
Mais là, t'as Unai, Vitinha, Payet, Bailly. T'as du monde quand même sur le banc.
Je trouve que Tudor fait ses changements un peu trop tard dans les matchs. C'est mon avis. Hein.
Il attend. Mais il ne le faisait pas forcément comme ça en début de saison. Je trouve que plus ça va. Et là, il s'est un peu... je trouve qu'il a, avec les deux défaites et tout, ça l'a encore plus contracté. Il a eu la première étape, ça a été bon, là, j'ai l'équipe qui gagne. Donc je fais jouer l'équipe qui gagne. Même si les premières mi-temps étaient plus très bonnes et que tu retournais les matchs et que ça commençait à être un peu sur un fil. Il a tiré ce fil jusqu'au bout. Pam, ça a pété face au PSG, face à Annecy. Et j'espère qu'il va se dire, les Unai, peut-être qu'il faut que je les rentre une demi-heure avant, ou des trucs comme ça. Quoi.
Ça, c'est pareil, tu recrutes Unai, à un moment donné, il va falloir aussi donner un petit peu sa chance,
ou
un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Tu vois, des matchs plus ou moins faciles, tu dis, tiens, je vais faire récupérer un joueur important, mais il faut que je mette Unai. Techniquement, je pense que ce joueur-là...
Il y a quelque chose, quoi.
Il y a vraiment quelque chose...
C'est pareil, on ne sait pas à quel poste il va le faire jouer.
Mais on sait pas.
C'est comme Guendouzi.
Son vrai rôle, je ne le connais pas, sincèrement.
Ouais. Ben, c'est...
Dans le schéma de jeu de Tudor, ça me semble un peu plus compliqué.
Mais en Coupe du Monde, avec le Maroc, il jouait dans un milieu à deux, comme le font Verretou et Rongier. Mais Hakim, qui est journaliste pour les Lions de l'Atlas, me disait il joue aussi des fois au milieu un peu offensif, comme ça. Il peut jouer à ces postes-là. C'est vraiment un joueur qui peut jouer à plusieurs postes au milieu. Parce que techniquement, il est à l'aise, il va assez vite.
Il élimine rapidement, il n'a pas de problème de contrôle orienté.
Il faut qu'il trouve sa place.
Pas de problème de projection vers l'avant. Voilà. Après... Comme tu dis, il faut qu'il trouve sa place dans le système, avec les intentions de son entraîneur, pour aller se projeter plus rapidement vers l'avant. Et puis après, je pense que ça serait un joueur, une pièce importante quand même, parce que le peu de fois où il est rentré, je trouve qu'il y a quelque chose en lui.
Tu vois, on sent qu'il y a... Ouais, il est rentré souvent pour remplacer...
Il y a du football, ce gars-là.
Pour remplacer Under.
Oui.
Alors qu'en fait, Under, c'est un titulaire indiscutable. Il est frustrant, Under. Moi, je l'aime trop, mais il est frustrant.
Oui,
il fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Parfois, il est totalement individuel. Mmh. Il mange trop le ballon, mais il te fera toujours la passe décisive ou le petit but qui va arriver derrière.
Il y a beaucoup de déchets autour de ça.
Mais beaucoup de déchets.
Avant de faire la passe D, les passes pour Sanchez, c'était...
Il mûrit, peut-être que ça va le faire grandir aussi.
C'est un jeune joueur, je crois, qu'il a 24 ans. Après, Unai, moi, je le vois plus pour l'après Guendouzi, tu vois. C'est un joueur qui peut... C'est pas du tout le même profil.
Tu vois,
mais c'est un joueur qui peut jouer...
Tu vois, là, on met Guendouzi beaucoup plus haut. Je préférais Unai.
Oui, c'est vrai.
Dans le rôle.
C'est vrai. Avec cette technique...
Après, il remplace Guendouzi par Malinovski, et Malinovski apporte énormément. Hein.
C'est vrai. Même s'il y a encore trop de déchets, je trouve, dans le jeu de Malinovski.
Oui.
Par contre, dans l'impact et dans l'investissement... lui, il compense vachement dans le couloir, dans la vitesse. Physiquement, il est solide, il court beaucoup, il compense. C'est intéressant, Malinovski, quand même. C'est la recrue qui est prête, je trouve, des trois. Les autres, ils ont besoin d'un peu de temps. T'as encore une question, Ryan ?
J'ai encore une question au poste de piston droit, Caboret. Qu'est-ce que vous pensez un peu de lui et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que vous avez parlé, on a parlé de Sanchez, on a parlé de Bailly, on a parlé un peu de Tavares aussi au niveau de leur avenir. Là, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire avec Caboret ?
Moi, c'est clair, 20 millions, c'est non.
Oui, c'est clair.
Non, après,
ça, c'est l'option d'achat, oui.
Ça, c'est sûr que ça ne sera pas 1 million.
Même à 15. Hein.
Mais est-ce que tu serais prêt à discuter imagine, j'en sais rien, on jette des prix, mais si tu discutes et si tu dis, bon, OK, à 8 ou 6 ou 8, on te le laisse. Est-ce que tu miserais sur lui ? Si c'était vraiment moins cher ?
La vraie question que je me pose, c'est est-ce que ce joueur est capable de passer un palier ?
C'est ça.
Parce qu'à l'OM, ce qu'il nous a montré, à part un match où il a été bon, si je ne me trompe pas, je crois que c'était à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Je me rappelle bien. Sinon, il ne m'a rien montré de plus qu'un joueur simple, que l'on peut avoir peut-être au centre de formation, qu'on peut l'avoir peut-être gratuitement ailleurs, tu vois. Il n'a pas cette personnalité. Il ne s'est pas imposé. À un moment donné, à l'OM, il faut arriver à t'imposer. Et tu sais, quand à un moment donné, tu as des défenseurs qui sont en déséquilibre, ou sur les pistons, ou quoi que ce soit, c'est là qu'il faut que tu montes ton caractère et te dire, tiens, là, je vais profiter de la situation pour gagner cette place et pour être titulaire. Ça n'a pas été le cas. Je pense que quand tu loupes ces marches-là, le bon wagon...
Après, c'est difficile.
Ça me rend un petit peu plus réticent. Alors, même s'il est jeune, l'option d'achat, j'en parle pas, parce que 20 millions, pour moi,
c'est fictif,
je trouve énorme. Maintenant, ça tourne 4-5 millions.
Ouais.
Toi, tu t'estimes que Rami nous l'a un peu survendu, Caboret ?
Je pense que si on peut l'avoir sur un nouveau prêt, pourquoi pas ?
Ouais, je repartirai sur un prêt.
Parce que je vois quand même des choses plutôt intéressantes. Parce que je trouve qu'entre son premier match et ce qu'il fait aujourd'hui, bah, tu sens qu'il a quand même quelques qualités, mais
il panique
énormément quand il a le ballon.
C'est vrai.
Et ça lui fait faire n'importe quoi parfois.
Il est foufou un peu.
Mais ouais, il panique. Je trouve que voilà, il a un manque de confiance.
Il a une grosse énergie, gros volume de course.
Puis il a beaucoup de choses à prouver.
C'est vrai que c'est un peu brouillon techniquement. Quoi.
Et repartir sur un prêt, pourquoi pas ?
Toi, c'est cette option que tu
veux. Est-ce que lui, un prêt, ça l'intéresserait en sachant qu'il ne sera pas titulaire au départ ?
Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'OM, c'est encore un peu trop haut pour lui. Ouais. Je pense qu'il a besoin de passer par un club intermédiaire où il va jouer.
Trouver des parties, faire une saison, une demi-saison à Auxerre,
c'est bien pour lui.
Quand il va revenir, ça va être une bête.
Là, dans sa tête, il va se dire, j'ai le niveau Ligue 1, déjà.
Ça, et surtout, il va dire, j'ai vu ce que c'était l'Olympique de Marseille. Pour grandir et pour jouer dans cette équipe, il manque telle et telle chose. S'il est intelligent et qu'il réfléchit, il peut avoir une belle carrière, ce petit Touré. Parce que les matchs amicaux nous avaient démontré certaines choses. Touré. Petite carrière et grande taille.
Ryan, t'as une dernière question ou c'est bon?
Non, on peut s'arrêter. On a fait 1h22.
Non, on s'arrêterait pas, on ferait 4 heures d'émission.
Ah non, mais il y a beaucoup de choses à dire.
Et encore, j'ai viré le truc sur les pistons parce qu'on aurait pu en parler longtemps. Parce que pour moi, c'est vu le jeu de Tudor, c'est.
On a parlé un petit peu pendant le débrief aussi de ce changement de piston des côtés.
Oui, l'inversion.
Il ne s'est pas expliqué d'ailleurs.
Non, c'est vrai. Ça n'a pas été posé.
Il n'y a pas de question sur Tavares. C'est bizarre quand même.
Bah non, on l'a rhabillé pour le
Tavares. Voilà, vous en avez parlé très longuement déjà.
Non, mais. Je reste étonné que les gens ne soient pas...
Un peu agressifs sur lui. Peut-être des
retours sur Tavares. Ils ne posent pas des vraies questions en fait, sur ce joueur.
Mais hier, ça a envoyé dans le chat sur
Tavares. Oui, ça oui. Mais en fait,
ce que je veux dire,
c'est un joueur très
clivant. Parce qu'autant on l'a monté par ses frappes de balles, par ses chevauchées en début d'année, on s'est dit, mais c'est quoi ce joueur ?
Ouais.
Moi, le premier.
Oui, moi aussi.
Je ne m'en cache pas, je lui disais, mais c'est un problème.
C'est un ovni.
Il sort celui-là, Arsenal le laisse partir, il y a un problème quelque part, quoi. Et au fil des rencontres, on se rend compte.
Mais moi, je ne comprends pas que Tudor lui fasse autant confiance. Moi, je ne comprends pas.
Tu mets à sa place aussi, c'est un peu.
Ouais, c'est sûr. Là,
je me demande si on ne pouvait pas tenter le coup Guendouzi, tu vois.
Ouais. Après, tu vois, là, il va bientôt récupérer Gigot. Ça va aussi lui permettre de faire remonter Kolasinac d'un cran. Et là, ça te donne plus d'opportunités. Le problème, c'est que là, il est obligé de faire jouer Kolasinac.
C'est peut-être pas sûr qu'il le sorte.
Peut-être pas sûr qu'il le sorte. Mais moi, franchement.
Il serait plus capable de sortir. Klaus que de sortir lui. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et ça, moi, je comprends pas.
Ça, alors.
Klaus, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus régulier, plus précis dans le jeu de passe, etc. Enfin,
sincèrement, à mes yeux, Klaus, c'est un top joueur. Hein.
Oui, c'est un top joueur. Moi, je trouve qu'il est en train de sacrifier Klaus pour Tavares, alors que Tavares,
on le met en porte à faux, Klaus. Ouais. Rappelez-vous que c'est quand même le meilleur passeur de l'OM et les troisième meilleurs passeurs du championnat de France.
Et là, il va le perdre.
Derrière Messi. Ouais. Et Neymar ou Mbappé.
Mbappé.
J'ai un peu l'impression.
Pas Mbappé.
Messi, Neymar.
J'ai un peu l'impression que Klaus, ça prend un peu le même chemin que Guendouzi. Moi, ça me fait flipper. De le voir baisser la tête comme ça, de le voir...
Il faut qu'il arrête de le faire jouer à gauche, là.
Ouais.
C'est... Non, mais il faut qu'il arrête de le balader.
Il est en train de le frustrer, le joueur, là.
Ouais. Il est venu... Déjà, on lui a fait perdre sa place en équipe de France. Ouais. Attends, le mec, il a pris un sacré coup de massue derrière
la tête. Là, c'est la faute à Deschamps. Hein.
Oui. Mais je veux dire, si les performances, on les avait laissées... Attends, à un moment donné, on l'a fait jouer jusqu'à l'usure, quoi.
Oui,
rappelle-toi, en début de saison.
Et c'est pas un joueur qui avait l'habitude.
Il était à la cale, il demandait qu'à sortir, on l'a pas sorti.
Il avait pas l'habitude de jouer comme ça.
Et quand il revient fort, on le met plus.
Ouais. Il se blesse aussi.
Il s'est blessé encore.
Ouais, mais parce que ça a été l'usure.
Ouais. Non, mais moi je pense Tavares, qui, comme tu l'as dit, a été surprenant, en ce moment, il apporte plus de problèmes que de solutions. Ouais, et un joueur qui apporte plus de problèmes que de solutions, il doit pas être sur le terrain. Ou alors en joker, à la rigueur, en joker.
Mais c'est
tu
même
fais jouer une demi-heure.
Les réflexions des partenaires.
Oui. Ça se voit. Même Mbemba, il a peur, il monte pas. Guendouzi, il gueule parce qu'il voit bien qu'il défend pas. Enfin, tout le monde le voit. Pourquoi Tudor, il le voit pas, ça? C'est incroyable. Parce qu'il se dit que ce joueur-là, il peut faire basculer le match à tout moment. Mais j'ai envie de dire à Tudor, il peut le faire basculer, mais des deux côtés à tout moment, en fait. Parce qu'en laissant partir les joueurs, en n'étant pas au marquage, il peut aussi te faire perdre les matchs, quoi. Donc, c'est un joueur dangereux. Mais tu sais qu'à un moment donné, il peut avoir un fil qui se touche. Il va faire deux dribbles et une frappe dans la lucarne. Tout le stade va se lever. Et on fait,
ouais, mais tu peux pas rêver que de ça. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je suis d'accord avec toi.
Tu
ne
peux pas te reposer que sur cette action-là où tu penses
qu'il
y aura une réaction.
Il y a des gens qui pensent comme ça.
Tu peux penser pendant des mois, des semaines et des mois, se dire il va le faire, mais il ne le fait jamais.
Ouais.
Tu comprends?
Et là, il ne marque plus trop, hein, quand même. Ça fait un petit moment qu'il ne marque plus. Ouais. Bon, on va s'arrêter là-dessus.
Oui.
Merci Sourinha.
Merci.
Merci Jean-Charles.
Nico, merci.
On se retrouve pas demain. Demain.
Après-demain.
Non, c'est normal, je fais débat fac, mais je suis en grève demain. J'irai encore à la manif avec ma fille. On va pas se laisser avoir. Et par contre, on se retrouvera jeudi pour un débat foot Marseille. Ça sera avec Monsieur Courme, qui sera disponible. Et on se retrouvera bien sûr dimanche soir pour Home Strasbourg. Ça sera ici dans le studio.
C'est confirmé ça?
Ah, c'était pas.
Mais je sais pas, non. Mais...
Alors, a priori, oui, a priori, quand c'est les matchs à domicile, à négocier avec Monsieur Courme. En tout cas, moi, je serai au stade, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ce sera au studio. Moi, je serai au stade pour la fancam. Donc, passez une bonne semaine. Une semaine où on sera un peu plus détendu, avec une petite victoire quand même qui fait du bien, on l'a dit comptablement. Maintenant, on attend un peu plus de continuité dans le jeu.
Vous avez passé la fête des grands-mères quand même ce week-end?
Oui.
Ah, ça va alors. C'est très bien. C'était bien, Mino.
Oui, j'y ai pensé.
C'est bien. Moi, mes enfants y ont pensé aussi, mais moi, j'avoue que je n'ai plus de grand-mère. Et je fêtais pas trop ces trucs là, mais c'est pas grave, c'est une autre question. Allez, bonne semaine et on se retrouve dès jeudi pour Débat Foot Marseille à 17h30. Ciao ciao.